parler, c'est déjà avancé. La nuit, la parole est libre. Un secret partagé est toujours plus facile à porter. 21h, 23h, Confidence. L'émission Sans Tabou avec Vanessa sur Beurre FM.
Bonsoir, chers amis, et bienvenue sur Beurre FM pour votre émission Confidence. Sans tabou et sans langue de bois. Voilà, dirais-je même. J'espère que vous allez bien. Et sinon, vous irez mieux. Vous allez voir d'ici la fin de l'émission. Voilà, on va essayer de vous détendre. On va essayer de vous changer les idées. Et moi, je vous invite à nous appeler. Ah, c'est important, c'est vous qui faites l'émission. Hein. Sinon, bah écoutez, on vous met de la musique. Hein. Non, on vous attend. Cette émission, c'est une émission d'échange, n'est-ce pas? Donc venez vider votre cœur, puisque c'est confidence, venez vous confier. Nous parler d'histoires qui vous tiennent à cœur, d'un passage peut-être un peu compliqué en ce moment. Ensemble, nous trouverons, je suis sûre, alors vraiment, des solutions. Voilà, des solutions, parce qu'il n'existe pas de problème sans solution, à travers, bien sûr, les expériences des uns, des autres, parce qu'on passe tous hein, par des épreuves dans la vie. Hein, voilà. Celui qui vous dit, moi, ma vie a été un long fleuve tranquille, celui-là, il vous ment. Ça n'existe pas. La vie est compliquée pour tout le monde. Malheureusement, c'est ainsi et pas autrement. Voilà. Et voilà, que ce soit dans nos vies personnelles, ben ouais, traverse, multitude de complications, n'est-ce pas? Donc que ce soit d'ordre santé pour nos proches, concernant nos proches, nous-mêmes, voilà, des deuils, des moments compliqués, quoi, dans la vie, hein. Tout le monde en traverse. Voilà, que voulez-vous, hein. On nous a pas signé un contrat à l'arrivée dans ce monde où il y avait écrit, voilà, ce qui vous attend, tout va bien et tout. Non. C'est compliqué, la vie. C'est compliqué. Et ça peut être aussi de bons moments. C'est important aussi. Des moments d'espoir aussi en ce moment. Eh bien, écoutez, quand on parle d'espoir, eh bien, il y a un espoir qui pointe à l'horizon. Ben, celui, par exemple, voilà, je vous le dis rapidement, mais en tout cas, je pense que tout le monde pense la même chose. Eh bien, la libération de ces otages. Eh oui, de ces otages qui vont enfin pouvoir retrouver leur famille. Ça, c'est important. Voilà, de l'autre côté, disons, au Moyen-Orient, hein, oui, entre ce qui se passe Israël, Palestine, et vous savez comment que ça se passe, et tout, on est tous nos cœurs sont vraiment retournés et on n'est pas bien, voilà. Eh bien, là, il y a cette lueur d'espoir. Peut-être que nos prières ont été entendues par notre Créateur à tous. Ben oui, c'est le Créateur de tous les humains. Et ces otages vont pouvoir enfin retrouver leur famille, une partie en tout cas, et on espère que tout le monde va être libéré. Voilà, parce qu'il faut penser à tout le monde, à toutes ces mamans, tous ces parents, toutes ces familles qui attendent les leurs, et puis il y a des enfants parmi eux. Voilà. Donc ces enfants, ces femmes, c'est toutes ces personnes, voilà, qui attendent de retrouver les leurs, et puis les familles qui attendent de retrouver leurs proches. Voilà. Donc voilà, une petite lueur d'espoir, que la raison revienne, en tous les cas. Et puis ces prisonniers aussi palestiniens qui vont être libérés. Parmi eux, il y a des jeunes, il y a des enfants aussi, hein, voilà, qui ont à peine 14 ou 15 ans, je sais pas, mais enfin, je sais qu'ils sont très jeunes. Il y a des femmes aussi, donc qui vont retrouver aussi leur famille. Voilà, si ça peut apaiser les esprits, et j'espère, espérons tous, continuons à prier. Voyez comme quoi les prières ça peut fonctionner. Eh bien, continuons à prier pour que déjà, cette trêve dure, que ce ne soit pas une trêve, que ce soit dans la durée. C'est ça qui est important. Voilà, que plus de bombes ne tombent sur les enfants et qu'ils puissent tous vivre en paix, qu'ils trouvent un terrain d'entente. Il y a toujours moyen de, je comprends pas les humains qui ne savent pas, qui savent plus parler. Dieu nous a doté du sens du langage. Vous vous rendez compte? À la différence des animaux, nous, on peut parler. C'est-à-dire que si on peut parler, on peut penser, c'est qu'on possède la raison. Mais apparemment, la raison, parfois, elle nous échappe. Donc, si on parle, c'est si on a le sens du langage, c'est pour échanger, pour communiquer, pour trouver des points d'entente. Voilà, au lieu de faire des victimes civiles. Moi, c'est les victimes civiles hein, qui nous touchent le plus, vraiment. Parce que ceux-là n'ont rien demandé, voyez-vous, sans distinction. Et donc le dialogue avec on dit de la discussion jaillit la lumière, et ça j'y crois fortement. Vous voyez, si on pouvait s'asseoir à une table avec des négociateurs, parler et que chacun y trouve son compte, et que les Palestiniens qui ont été spoliés de beaucoup de leur terre, comme en Cisjordanie, puissent retrouver enfin la paix et puis leur maison, leur terre, etc., et que chacun puisse vivre tranquillement entre les deux peuples, hein, israéliens et palestiniens. Eh bien, parce que les civils, eh ben, c'est les civils, hein. De part et d'autre, il y a des familles, et il faut penser, voilà, à tout le monde. Bien sûr qu'il y a un peuple qui est en grande souffrance, on le sait, mais il faut aussi penser à tout le monde, et qu'ils puissent vivre tous en paix. Une terre, c'est fait pour être partagée. Voilà, durant notre séjour sur Terre. Parce que tout ça, c'est de l'illusion. Il n'y a rien qui nous appartient. Tout est prêté par... Tout appartient à Dieu, de toute façon. Rien ne nous appartient et nous prête. Donc, sachons préserver, en tous les cas, ces merveilles qui nous prêtent et qui sont si précieuses. Et le partage, que tout le monde puisse vivre en paix. Moi, j'y crois, hein, je vous l'ai toujours dit, j'y crois. Malgré tout ce qui s'est passé, on est malade. Malgré tout ce qui s'est passé, tout ce sang versé, mon Dieu, quelle horreur. Eh bien, je crois fortement. Et prions chaque soir, on prie vraiment. Chacun à sa manière, chacun avec ses mots à lui, chacun dans sa langue. Et chacun à sa manière de s'adresser à Dieu. Et certains avec des bougies, comme moi, j'allume des bougies tous les soirs. Et je prie pour que tout le monde puisse vivre en paix. Et que sur cette terre... Eh bien, les deux peuples puissent vivre en parfaite harmonie. Voilà, que les enfants puissent vivre tranquillement, sans entendre des bombes, sans frayeur. Ça, c'est important, ça. C'est très, très important. Vraiment. Pensez à tout le monde. Et je suis sûre que ça arrivera. Un jour, mais que ce jour soit le plus proche possible. Vraiment. Il faut y arriver, quoi. Ils savent très bien qu'ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix, ils vont dans le mur. Je crois que c'est Martin Luther King ou je sais plus qui avait dit on est condamné à y vivre ensemble ou alors on va dans le mur quoi. Eh bien on est condamné à mourir. Donc voilà, pour ne pas être condamné à mourir, eh bien il faut plutôt prôner la vie. C'est important que ces deux peuples puissent vivre en paix. Voyez-vous, si on est humain, on pense à tout le monde. Voilà, toutes ces mamans, regardez, du côté des Palestiniens, les pauvres mamans, je veux dire qui couraient avec leurs bagages, etc., avec les enfants. Il y en a qui mouraient sous les bombes. Quelle horreur. Et de l'autre côté, des parents aussi, qui n'ont rien demandé non plus. Leurs enfants ont été enlevés, pris en otage. Ils savent pas où ils sont. Ils savent pas s'ils sont en vie ou pas. Il faut penser à tout le monde. Si on se veut juste et humain, il faut penser à tout le monde. Voilà. Et quand je dis à tout le monde, je pense pas, bien sûr, aux gouvernants, tout ça. Non. Je pense aux civils. Vraiment, aux civils, de part et d'autre, qui veulent la paix. Voilà, qui veulent la paix. En Israël, on a vu des Israéliens marcher tous les jours et aller réclamer cette paix, crier « on veut la paix, arrêtez de bombarder ». Ça, il faut le dire aussi. Il faut le dire qu'en Israël, il y a des Israéliens qui marchent pour la paix et qui demandent la paix et qui disent « arrêtez de bombarder Gaza ». Voilà, voyez. Donc, on peut pas dire que tous les mauvais se trouvent d'un côté, tous les bons de l'autre. C'est pas vrai. Il y a du bon et du mauvais toujours partout, voyez-vous. Voilà, l'être humain il est ce qu'il est. Donc du côté israélien, il y a des personnes qui marchent et qui demandent qui réclament la paix et qui disent arrêtez de bombarder. Voilà, et cela mérite qu'on les cite aussi, parce que ce serait dommage de passer à côté, parce que il y a beaucoup de partis pris et souvent les gens prennent tellement parti, sont dans l'émotion, ils oublient que d'un côté il y a de belles personnes, il y a des personnes qui sont bienveillantes et qui sont pour la paix. Et bien au moins pour ceux-là, qui peu importe leur nombre, peu importe. Même si c'est une poignée, peu importe. Mais en tous les cas, ils existent. Et ceux-là, ils méritent d'être cités. Et ils méritent qu'on puisse parler en leur nom et les encourager. Et les encourager dans le sens de la paix. Voilà. Parce que ce qu'on aspire, on aspire à quoi? Ben, à la paix. Voilà. C'est pas, les uns doivent prendre tout et les autres rien. Etc. Non! Le partage et la paix. Voilà. On est pour ça. C'est ça qui est important. L'amour. Le partage, Dieu nous a mis sur cette terre, voilà, pour qu'on puisse vivre en paix, dans le partage, entre toute cette belle diversité qu'il a choisie. Voilà, peu importe nos religions, elles sont toutes belles les religions, de toute façon elles se ressemblent tous. Quand vous regardez dans le judaïsme, et vous allez chercher dans le christianisme et dans l'islam, eh bien dans l'islam, dans le Coran, vous retrouvez beaucoup de préceptes qui viennent de la Torah et qui viennent de la Bible. Et oui, parce que ce sont que des recommandations de paix, d'amour, de vivre ensemble, voilà ce que Dieu attend de nous. Il a fait cette diversité, nous on sait pas pourquoi, mais lui il sait. Voilà, c'est peut-être pour nous tester, pour savoir si on a compris le message. Voilà, c'est ça. Enfin, moi, je trouve que quelle tristesse, mon Dieu, quelle tristesse, tous ces drames. Vraiment. Voilà. Donc, soyons justes et cette lueur d'espoir qui nous vient de l'autre côté avec cette libération d'otages et de prisonniers, d'échanges et peut-être de paix qui va arriver juste derrière, que cette trêve ne soit pas juste une trêve de quelques jours et que ce soit dans la durée. Voilà ce qu'on souhaite. Voilà. Inch'Allah, Rabbi, en tout cas. Voilà, chers amis. On a Ahmed, tiens, on va le prendre tout de suite. Il nous appelle de Casablanca, notre ami Ahmed. Il nous a manqué. Bonsoir, Ahmed.
Bonsoir, madame Vanessa. Moi aussi, vous m'avez manqué.
Ah, c'est gentil, Ahmed. Comment va Casablanca? Comment va le Maroc?
J'ai appris que vous avez demandé après moi à
oui.
plusieurs reprises.
Ah oui, ah oui, toujours.
Et le Maroc va très bien.
Alhamdoulilah. Salam alaykoum pour nous, hein, vraiment.
Alhamdoulilah.
Ah, bah. Est-ce que vous avez du beau temps? Parce que nous, à Paris, hein, il fait gris. Hein.
Là, ce soir, il fait un peu froid.
Ah.
Mais dans la journée, il a fait beau.
Ah, ben
un
voilà.
peu froid, mais il a fait beau, il y a du soleil.
Formidable. Et toi, comment nous, tu vas, Ahmed?
Il nous manque de l'eau. Et ouais, comme tous les vieux.
Je ne veux pas entendre ça. Je ne veux pas.
Comment on peut aller,
il n'y a pas de vieux.
Comment on peut aller à 80 ans, vous savez?
Allah ibarak, mazat al baraka.
Dans une semaine, je suis dans la case des
octogénaires. Allah ibarak, rabbi toul amrak, kouyatek sahet.
J'avais un problème de santé, un problème de santé de mon fils, ensuite des problèmes de mécanique. Ah. Parce que moi, je ne vous capte pas papa, via Internet.
Ah oui?
Non, parce que via Internet, il y a toujours des problèmes.
Ah!
Il y a Internet qui coupe, c'est Internet.
Oh mince!
Alors, moi, je vous capte via les satellites.
Ah oui, avec la parabole.
Voilà,
l'antenne parabolique. Ah oui,
à
d'accord.
À partir de Astra.
Astra, oui.
Mais j'ai la radio directe, c'est impeccable. Il n'y a pas le moindre parasite, mais le son est parfait.
Ah.
Pas de coupure, il n'y a rien du tout.
Formidable.
Et là, j'avais un arbre chez les voisins qui a trop poussé, qui gênait l'arrivée du signal.
Ah, mince.
Et le temps qu'il décide de le diminuer, qu'il lâche, pour ne pas
tailler.
Rentrer chez eux,
aïe, aïe.
Le tailler un peu, donc ce qui fait que ça a traîné.
Ah là 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 là.
Et oui, Lyon, j'ai remis tout en place et je me suis dépêché d'être le premier, ce soir d'être le premier pour vous saluer et vous dire que ça va, que la santé va.
Très touché, ça me fait plaisir. Je me suis inquiétée parce que j'avais pas tes nouvelles. Alors j'ai dit, qu'est-ce qui devient Ahmed? C'est vrai que tu fais partie de la famille. Et je me suis inquiétée, je voulais absolument avoir de tes nouvelles. Je suis très heureuse ce soir vraiment d'en recevoir Ahmed, vraiment.
Et de savoir que tu vas bien. J'ai reçu aujourd'hui une dame qui vit en France, qui avait des problèmes de consommation.
De quoi?
Et on a travaillé, le problème de consommateur. Et
ah,
on a
oui.
discuté, pour essayer de résoudre le problème, on a papoté un peu, et d'un bout à l'autre, je me dis, Vanessa te réclame, bon, je vais voir ce que je peux faire. Et c'est tombé très bien, aujourd'hui j'ai pas réglé le problème.
Donc, si ah, vous voulez, ça fait plaisir.
C'est la première que j'appelle à partir de ce.
Je suis très heureuse, Ahmed. Tu peux pas t'imaginer. Tu peux pas savoir comment Aziz Aliya, comme on dit, parce que quand on le dit en français, ça perd de sa valeur. Mais quand on le dit en arabia, Aziz Aliya, c'est que vraiment Aziz Aliya, vraiment, vraiment.
Ça, c'est la langue qui est comme ça, malheureusement.
Oui. Oui, la langue.
Des nouvelles de Fatima Zahra, la philosophe.
Alors, hier, elle nous a appelé.
Ah, ben, c'est pas
hier, bien. Elle nous a appelé Fatima Zahra. Fatima.
La philosophe.
Oui, la philosophe. Moi, je l'appelle Fatima. La philosophe, hier, elle a appelé. Elle a fait une très belle prestation. Elle est restée avec nous un moment à l'antenne. Ah oui, oui.
Elle avait
quelques petits soucis de santé. Elle avait quelques petits soucis qu'elle a réglés. Et là, elle dit que ça va mieux. Et on était très heureux de la voir. Et j'aimerais bien qu'elle rappelle ce soir. Moi, Fatima, c'est une femme que j'aime énormément. Vraiment.
Contemporel.
Ouais.
Alors, mes amitiés à tout le monde.
Merci.
Maintenant, ça va, le matériel est bon. Moi, j'ai récupéré un peu de santé pour pouvoir parler.
Ah.
J'espère que j'interviendrai un peu plus souvent.
Avec plaisir. Et prends soin de toi, Ahmed. On a besoin de toi.
Barak Lofk. Alors, à très, très bientôt.
Inch'Allah, je t'embrasse fort, Ahmed. Oui. Embrasse Casablanca et tout le Maroc.
Je n'y manquerai pas.
Merci beaucoup. À bientôt. Beslama. Merci. Oh oui, c'est du bonheur, Ahmed. C'est un auditeur de première heure qui est toujours intervenu avec beaucoup de philosophie d'ailleurs, puisqu'on parle de philosophie, et avec beaucoup de, il a aussi beaucoup un talent vraiment, c'est un poète, c'est beaucoup de choses. Il arrive toujours à régler le problème des gens. C'est pour ça qu'il disait de consommateurs, etc. Donc, c'est, vous savez, comme ici, on a des associations connues qui sont en lien avec le consommateur et pour régler les problèmes. Eh bien, lui, c'est son travail là-bas. C'est un négociateur. Enfin, il arrive toujours à faire intermédiaire entre les personnes qui rencontrent des problèmes avec... ça peut être beaucoup de choses, hein, voilà. Et puis avec les personnes concernées, voilà. Donc Ahmed, c'est quelqu'un que vraiment j'estime énormément. Voilà, il nous appelle régulièrement de Casablanca et ça me touche énormément. 01 53 48 3000, chers amis, venez si vous voulez, on peut poursuivre ce qu'on s'est dit ces derniers jours. Je sais plus ce qu'on s'est dit hier. On tous les jours on change de sujet. Alors il y avait un auditeur hier qui devait nous appeler, c'est Samir. Samir, tu veux qu'on te rappelle ? On peut rappeler Samir ? On a son numéro. Je te l'envoie, Solal, parce que je lui ai promis. D'accord ? Mais venez, on vous attend au 01 53 48 3000.
Un sujet à évoquer ? Une question à poser ? 01 53 48 3000. La parole est à vous.
Oui, la parole est à vous. Et qu'à vous seulement. Un peu moins aussi. Pourquoi tu rigoles, Solal ? Pourquoi tu te moques de moi ? Est-ce que je mérite qu'on se moque de moi, chers amis ? Franchement. Oh là là, je sais pas où la chita kali, tout le temps il rigole. Bon. Alors, voilà, je t'ai envoyé le numéro de Samir. Je sais pas si tu arrives à me relire parce que j'écris pire qu'un docteur. C'est vrai, parce que les médecins, ils sont lisibles. Il n'y a que les pharmaciens qui arrivent à lire les ordonnances des médecins. Alors, 01 53 48 3000, Alain. Ah, on a Fatima, je te prends juste après, ma chérie. Alain, qui nous appelle de Paris. Bonsoir, Alain.
Bonsoir Vanessa, bonsoir tout le monde.
Comment vas-tu ?
Ben, je vais comme un vieux.
Oh, vous m'énervez avec votre vieux là. Il n'y a pas de vieux, ça n'existe pas.
Non, mais c'est...
La jeunesse est dans le cœur.
Oui, ben écoute, moi j'essaye de m'occuper pendant ma retraite et donc bon, je suis passé quelques fois à l'antenne pour la recherche de l'âme sœur, mais bon, on va la mettre de côté parce que...
Ah ben voilà, de toute façon, c'est dans les petites
c'est
annonces.
C'est compliqué, Vanessa.
Alors, ben pourquoi c'est compliqué ?
Bah, c'est compliqué parce qu'il y a des gens qui sont malveillants et qui, et à cause de ça, j'ai perdu mon numéro de téléphone. Là, je suis en conflit. Voilà.
Comment t'as perdu ? Comment tu l'as perdu ? J'ai pas compris.
Bah, en fait, j'étais vraiment embêté pendant toute la nuit, toute la journée.
Oui.
Avec des menaces de mort.
Quoi ?
Oui.
Faut déposer.
Parce que j'ai enregistré tout.
Eh ben, tu déposes plainte. Tu as les numéros de téléphone ?
J'ai déjà fait. Donc, j'ai envoyé ma puce à mon opérateur qui, lui, va se retourner contre les personnes.
C'est incroyable.
Parce que tu sais, Vanessa, beaucoup d'auditeurs ne savent pas. Tout le monde croit en achetant des numéros prépayés qu'on ne peut pas retrouver les gens. C'est faux.
Bien sûr que c'est faux.
Parce que maintenant, avec le traçage, on peut trouver à un mètre près où habite la personne.
Exactement. Les gens sont bêtes. Ils pensent que...
Bien sûr.
Et carrément des menaces de mort. Mais menaces de mort ? Ça va jusque-là ?
Oui, pourquoi ? Parce que si je veux goûter le parfum d'Orient, ils vont m'en donner.
Mais ils sont tarés ou quoi ?
Bah, tu sais, Vanessa, c'est pas la première fois que tu en parles. Que les auditeurs en parlent aussi, tu sais. Ouais, personne n'est parfait dans notre monde, tu le sais bien, malheureusement.
Ouais, le parfum d'Orient, ça, c'est du racisme, ça ?
Oui.
C'est du racisme.
Bon, on va mettre ça de côté. Donc,
ouais, mais c'est bien de le dénoncer aussi.
Oui, je suis en train de faire quelque chose pour aider un peu tout le monde. Donc, je suis en train de mettre en place un blog ou un site, je ne sais pas encore, qui va s'appeler Stop Arnaque. Parce que je me rends
compte... Ça existe déjà.
Oui, mais bon, j'ai regardé un petit peu ce qu'ils font.
Il faut envoyer un numéro de 3 chiffres, ou 4 chiffres, je crois.
Oui,
tu envoies le numéro de téléphone malveillant et eux, ils s'en chargent. Pars pas, Alain, on a une petite pause. À tout de suite.
Confidence revient dans un instant. 21h, 23h, Confidence, l'émission sans tabou avec Vanessa sur Beurre FM.
Au 01 53 48 3000, amour, paix. Oh tiens, ce serait bien comme sujet ce soir, Solal, qu'est-ce que tu penses ? Hein, tu peux le dire à l'antenne, hein ? Tu peux parler, t'as une langue, hein ? Tu parles bien en plus.
Bah écoute, amour et paix, chers auditeurs, et si vous voulez intervenir sur ce sujet, appelez le 01 53 48 3000. Moi, je serais ravi d'écouter ça. Franchement, c'est un très bon sujet. Je pense que je suis pas le seul. Je pense notamment à Fatima Destin qui serait ravie d'aborder ce sujet. Voilà, un peu de douceur, comme tu le répètes, Vanessa, c'est sûr. Et je pense que t'es une des rares personnes à le répéter dans les médias. En tout cas, à prôner cette paix dans le monde. Et on en a besoin. Je pense que je suis pas le seul, comme je l'ai dit, à aimer ce genre de sujet.
Bah écoute, merci Solal. Et je sais comment tu fonctionnes. Et c'est vrai qu'on a besoin, d'amour et de paix. Je pense que si on répète souvent, parce que l'univers c'est un entonnoir, c'est comme ça que je vois l'univers moi, comme un entonnoir. Dire que le côté plus gros, c'est vers nous, et après ça monte comme une espèce de pyramide, et ça arrive là-haut à l'univers. Donc tout ce qu'on dit ici, c'est le gros côté de l'entonnoir. Donc parce qu'on est nombreux et on parle et on piaille, etc. Donc tout remonte à la surface, ça se filtre, et ça arrive là-haut. C'est comme ça que je vois les choses. Non, je délire pas, c'est la réalité. Donc si tous ensemble nous pensons, parce que la pensée est très importante, on peut transformer le monde avec sa pensée, ses pensées positives, ses ondes positives et ses paroles positives, ses paroles d'amour. C'est très important. Si on parle d'amour, de fraternité, de solidarité, eh bien, Dieu va nous aimer une fois. Quand je dis va nous aimer, il nous a aimé un jour. Mais là, je crois qu'il en a marre. Donc, je pense qu'il va comprendre qu'on s'est assagi, qu'on a compris le message. Et que, voilà. Moi, je crois aux paroles positives. Voilà. Il y en a qui disent bisounours. Ben, tant pis pour vous. Oui, bisounours. Voilà. J'ai envie de vivre dans ce monde de bisounours. Voilà, chers amis. Alors, Alain, je te reprends après. Tu nous raconteras ton histoire de projet de filtrer les numéros de téléphone. Ça existe, Alain. Enfin, bref, je veux pas te casser ton délire. Samir, qui nous appelle du 75 de Paris. Alors, c'est Samir qui nous a appelé hier.
Oui.
Tu as appelé, bonsoir,
Vanessa.
Voilà, en les dernières minutes, et c'était dommage de couper. Et voilà. Et je voulais t'avoir ce soir. Je te laisse continuer sur ce que tu disais, parce que c'était important ce que tu disais, je trouvais intéressant.
Oui, en fait, je crois qu'on s'était arrêté par rapport à monsieur Karim qui a appelé hier pour. Je crois qu'il avait parlé de Le Pen, hein, des élections en 2002 et la montée de Le Pen. Donc,
au
second tour. Hein, donc on a parlé de Jospin, on avait parlé de l'antisémitisme, hein, et donc.
Oui.
Un peu dans l'imaginaire collectif, hein, donc le juif riche, donc c'est une forme aussi de discrimination.
Bien sûr.
L'antisémitisme est une forme de discrimination, le racisme est une forme de discrimination, tout comme le sexisme, tout comme le.
L'homophobie.
L'homophobie également, c'est-à-dire que ce qui est gênant dans l'histoire, c'est que c'est vrai que. Ce qui s'est passé hier ou avant-hier par rapport à Morad, bon, c'est un fait divers, hein, le monsieur, c'est un raciste, hein, on n'y peut rien, les racistes en général ne sont pas non plus d'une très grande intelligence.
Mais souvent.
Voilà.
C'est vrai.
Il se trouve que le problème, c'est que la communauté, en fait, dans le flanc à chaque fois pour prendre les coups. C'est-à-dire, je ne sais pas si j'ai raison, mais en tout cas, moi, j'observe, hein, depuis des années, je suis ici depuis 25 ans à peu près, donc. J'appartiens à une génération, je suis première immigration. Hein.
Mmh.
Je travaille beaucoup avec les jeunes dans le cadre de mon travail, donc de ma profession.
Oui.
Je vois qu'ils sont, excuse-moi pour l'expression, hein, c'est vraiment pas péjoratif, mais ils sont un peu appauvris, certains, pas tous, appauvris un peu culturellement. Il faut dire que notre communauté, beaucoup d'entre nous ne sont pas très portés sur le savoir. Alors, donc, c'est parce qu'ils n'ont pas ces outils. C'est parce qu'on les a construits.
Oui, mais quand tu dis ça, ça fait quand même. Tu généralises un petit peu, même si tu dis.
Non, je ne généralise pas certains. Je n'ai pas dit tout. La preuve.
Bah,
il y a toi, il y a moi, il y a ceux qui sont. Bah,
ouais, mais enfin, bon. La grande majorité, bien au contraire, est portée sur le savoir, sur les études, sur le travail. On connaît beaucoup de gens qui se reconvertissent, c'est sûr, hein, autrement, et même à 45-50 ans, changent carrément de trajectoire, se reconvertissent, etc. Ah oui, et puis beaucoup font des études. Quand on va dans les hôpitaux, on voit beaucoup de médecins, beaucoup de soignants, etc., qui sont de la communauté. Non, c'est des personnes qui font pas de bruit, mais ils sont très nombreux, Samir.
C'est ça, mais sauf que nous, mais en même temps, il faut pas se leurrer. Donc, les prix. Je reprends, c'est vraiment pas. Enfin, c'est une réalité. Hein, c'est pas actuel. C'est pas quelque chose. C'est-à-dire que là, pour l'instant, ceux qui sont issus de l'immigration qui posent des problèmes. Il y a 20 ans, 30 ans en arrière, c'était d'autres catégories de population. Il y a il y a 60 ans en arrière, c'était une autre... De toute façon, il y a toujours eu, donc c'est le cycle, hein, donc des générations, de l'histoire, des civilisations, qui fait que... ce qui m'intéresse, en fait, c'est que, d'abord, les nôtres, en fait, ont souvent... Les nôtres, quand je dis les nôtres, bon... On crie tout le temps au loup, au racisme et tout ça, mais moi je le vois avec les jeunes qu'on encadre, ils crient au racisme, mais en même temps ils hiérarchisent un peu ces discriminations, mais en même temps ils sont sexistes, par exemple ils sont homophobes à 100%, donc
100% non là c'est pire qu'une généralité. Quand tu dis 100%, ça voudrait dire que les gens de notre communauté seraient à 100% homophobes. C'est pas vrai.
Non, je dis pas notre communauté, non. En fait, il faut vraiment, j'essaie de faire attention par rapport aux mots, les mots qu'il faut employer. Je ne veux pas.
Il y a des homophobes, mais il y en a partout. Et tu en as dans toutes les origines.
Oui, bien sûr. Mais non, c'est pas
regarde ça, par exemple partout, les manifestations qu'il y a eu contre les LGBT, tout ça. Si tu te souviens, il y a quelques années en arrière, t'avais des personnes qui, c'est souvent des personnes qui sont tu sais dans une foi mais assez rigoureuse. T'avais des chrétiens mais bien chrétiens qui sortaient, qui étaient contre justement.
Ah oui,
voilà, que
bon,
ce soit dans toutes les religions,
chrétien,
hein, voilà.
Oui, mais
on peut pas dire que c'est uniquement dans une catégorie de citoyens que l'homophobie sévit.
Mais c'est vrai, dans
certains quartiers, être homosexuel, c'est compliqué dans certains quartiers.
Non, mais quand je parle de l'homosexuel, c'est pas ça. Enfin, je parle aussi de toute forme de discrimination. Je ne parle pas forcément et seulement de ça. Mais c'est juste que ces chrétiens, bien chrétiens, qui sont vraiment dans le pratiquant et croyant, donc, et qui vont trouver ça... contre nature, tout ce que vous voulez, tout ce que voilà. Donc c'est pas des gens qui vont sortir sur la place publique et crier au loup et crier aux autres discriminations.
Ben oui.
C'est
malheureusement, l'homophobie c'est un fléau qui sévit dans beaucoup de couches de la société.
Oui,
hein, il y a pas d'origine. Voilà, meilleur qu'une autre.
D'origine. La bêtise n'a pas d'origine. Le manque d'intelligence n'a pas d'origine. Et je veux dire que demain, moi, quand il y a quelqu'un qui va venir parce que de par un peu mon origine ou mon prénom, il va peut-être dire que il va tout de suite m'attribuer certaines choses que moi je n'ai pas, ou je veux dire qu'il va me qualifier par exemple, qui va avoir une attitude raciste à mon égard parce que je suis tout simplement d'origine autre que caucasienne, enfin que européenne. Je veux dire, il est un peu dans les idées reçues, il est un peu dans l'image subliminale, on est d'accord dans ça, mais c'est que cette image-là, on l'a aussi, nous, on a contribué à la... Il faut dire les choses de cette façon, on vit à Paris, enfin, on vit en Ile-de-France, et on voit un peu tous les... Qui sont, je veux dire, à l'origine de beaucoup d'actes malveillants, et qui sont de chez nous. Il y en a qui sont d'une autre nationalité. Tout ça, je dis ça, c'est parce que nous, on donne aussi parfois les bâtons pour nous faire battre. Mais au-delà de ça, il y a aussi autre chose très, très importante.
Oui.
On a oublié en tant que musulmans d'être aussi parfois discret. Ça, je l'ai toujours dit, mais on a oublié d'être discret. On avait besoin à chaque fois de crier, de montrer, donc dans cette espèce de démonstration, hein, donc que nous sommes. J'oublie le nom, je suis en train de chercher le mot, mais ostentatoire, c'est ça ce qu'on dit. Donc dans cette espèce de voilà. Donc on a oublié.
Mais est-ce qu'on peut se poser aussi la question pourquoi ? Parce que quand on dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Oui, ce que tu dis en partie, c'est vrai. Oui, c'est la réalité en partie. Hein, je dis bien. C'est ce qu'on entend d'ailleurs sur beaucoup de plateaux. Toi, tu le dis, mais différemment. Non. Mais sur certains médias, eh bien, ils le disent, mais sur un ton accusateur, vois-tu. Mais toi, non.
Oui,
toi,
oui.
Non. Mais j'entends bien.
Je vais
jusqu'au bout de mon argument. Tu vas comprendre. Ouais. Continuer. Ce que je veux dire, non, tu le dis pas dans ce sens, toi, j'ai bien compris. Mais ce que je veux dire par là, est-ce qu'on peut essayer de comprendre pourquoi, quand tu parles de ostentatoire, tout ça et tout, montrer, voilà, le fait de montrer qu'on est, voilà, certains veulent montrer qu'ils sont musulmans, etc. Alors, c'est pas par un excès de foi, souvent, hein, ou de religiosité, ou parce qu'ils sont plus croyants que d'autres, non. Quand tu grattes un petit peu, quand tu essayes de chercher à comprendre le pourquoi, dans un second temps, t'as des réponses quand même, hein. Est-ce que justement, du fait qu'il y a ce racisme qui ne disait pas trop son nom fut un temps et qui aujourd'hui est visible, on le voit très décomplexé même. Eh bien, est-ce que ces jeunes justement qui avant les premières générations se faisaient plus discrètes et cherchaient plus à travailler, nourrir leurs enfants et pas faire de bruit quoi.
Mais
est-ce que attends voilà non mais je suis en train de remonter. Est-ce que bon à l'époque voilà et que à l'époque les parents, les grands-parents, c'était une époque compliquée, difficile, ça sortait de guerre, de machin, c'était économique et puis la plupart étaient analphabètes donc ils connaissaient pas trop leurs droits et puis ils disaient toujours qu'ils n'étaient pas, on n'est pas chez nous, tu comprends, ils disaient on n'est pas chez nous, ils avaient toujours l'espoir de retourner chez eux, ils avaient d'ailleurs ils construisaient au pays etc, ils travaillaient pour ça. Donc tu comprends, ils avaient d'autres projets, on n'est pas chez nous. On n'est pas chez nous. Donc c'était ça. Donc ils acceptaient, je dirais pas acceptaient, mais ils accusaient le coup, quoi. Donc ils disaient bon, j'entends ça, si on m'aime pas, c'est parce que de toute façon je suis pas chez moi, je comprends, etc. Donc ils étaient pas dans la, si tu veux, dans le combat. Le combat, je dis bien pacifique. Hein. Mais aujourd'hui cette jeunesse, elle est différente. Ils sont différents, les jeunes d'aujourd'hui. Donc les jeunes d'aujourd'hui, je parle pas de ceux qui commettent des choses, je parle des jeunes qui font des études, tout ça, qui travaillent, mais qui n'acceptent pas, ils sont pas comme les parents, ils veulent pas courber les chines, donc ils sont pas forcément dans la violence, hein, mais ils disent non. Alors pour cette manière de dire non et de revendiquer leur identité, c'est une manière de montrer son identité que de montrer comment la montrer. Regarde, attends, dans les stades par exemple, dans les stades etc, dans les festivités, ils vont sortir les drapeaux de leur pays. Et puis c'est une manière de démontrer une identité et de dire voilà, j'existe finalement. Et puis à travers la religion également, à travers la religion, en disant ben voilà, vous me voulez différent, ben écoutez, voilà, je suis musulman, je suis fier d'être musulman, voilà, je suis quelqu'un de qui prône la non-violence.
Donc on est dans l'identitaire.
Mais oui, mais on les pousse à ça. Tu sais, à force de te dire que on te tape dessus, t'allumes la télé, discrimination à l'emploi, de tout ça. Ne pars pas, on a une petite pause, à tout de suite.
Confidence revient dans un instant. 21h, 23h, Confidence, l'émission sans tabou avec Vanessa sur Beurre FM.
Au 01 53 48 3000, on continue avec Samir. Samir qui nous appelle de Paris. Oui. Alors on va faire, Samir, si tu le permets, on va faire un petit débat. On va prendre Bac qui nous a appelé hier également, qui voudrait intervenir. Ah, c'est bien, plus on est deux, hein, et plus on est sage. Bonsoir Bac.
Bonsoir, comment allez-vous?
Bah écoute, ça va, bienvenue à toi en tout cas.
Merci, c'est gentil. Je vais d'allumer la radio, j'ai entendu un petit peu ce qui se passe en radio. Et je voulais pas parler à tout ce qui est identitaire, tout ça. Et à un moment, il faut parler en positif de nous. Parce qu'il y a plein de gens de notre communauté qui font plein de choses positives et qu'on retient que le négatif. Vous voyez, c'est comme un costume.
Ah oui, c'est clair.
Un bon costume. Non. S'il y a une tâche, on va retenir que la tâche. Alors que le costume, il prend vraiment plus de place. Et par rapport à l'identité, je veux dire, c'est bien beau qu'on dit oui, c'est identitaire et tout, mais regardez, vous allez dans les rayons, peu importe hein, le centre commercial, on met bien, en gros, oui c'est halal, quand c'est ramadan, oui c'est l'Aïd, vous voyez ce que je veux dire? Et on se pose souvent, quand on passe souvent de crise identitaire, on fait souvent un rapprochement avec le voile. Alors qu'il y a d'autres
tout ce qui est relatif à l'identité n'est pas forcément péjoratif. Peut être culturel, une quête culturelle justement.
C'est même positif parce que quand on regarde bien les personnes qui sont dans la foi, qui sont bien ancrées dedans, quand on regarde, on les voit beaucoup dans les associations. Ils font beaucoup de bien aux gens démunis. Ils font des maraudes. Ils aident personnes qui sont en situation vraiment précaire. Ça, on oublie de le dire, on retient que des choses négatives.
On n'a pas besoin d'être dans la religion pour faire des maraudes et pour être altruiste.
Non, parce que vous parlez d'identité. Vous parlez souvent de...
Non, c'est pas ça. Moi, je crois que Vanessa avait mal compris. À un moment donné, vous savez, il faut vraiment voir les choses en face. Moi, je pense que les gens, hein, les jeunes d'ici, notamment ceux qui ont les codes d'ici, ceux qui sont nés ici, qui connaissent, moi je suis pas né ici, je n'ai pas les codes d'ici. Je ne suis pas comme toi, Barthi. Toi, tu es là, t'as grandi ici, tu connais mieux les codes. Je veux dire, moi, j'ai du tout construire ici, en arrivant. Donc, c'est pas la même chose. Et tout à l'heure, elle parlait justement, je fais le parallèle avec ce que disait Vanessa tout à l'heure par rapport à l'ancienne génération qui, malheureusement, n'avait pas les outils, n'était pas outillée parce que c'était pas des gens forcément instruits, malheureusement, et qui ont dû batailler. Qui ont dû subir vraiment beaucoup d'injustices parce que tout simplement ils n'avaient pas les moyens, ils savaient pas comment. Ça se produira pas. C'est ça ce que je veux dire. Ça se produira, je pense, beaucoup moins avec les gens qui sont instruits. C'est pour ça que faut peut-être à un moment donné. Il y a beaucoup de gens, mais on les met pas d'ailleurs en valeur, hein, donc qui sont portés sur le savoir, qui veulent. Donc on n'a pas de grandes orientations parce que nous n'avons pas de grandes orientations non plus. C'est-à-dire on est une communauté, donc on se dit d'origine. En même temps, je sais pas, il y a cette absence un peu de d'orientation, cette espèce de dire allez, on va, je veux dire moi je suis admiratif face par exemple au à ce que cette manière d'avancer des juifs, enfin je veux dire comment ils se défendent, enfin il l'a dit une fois Benjamin Stora, même si moi je l'aime pas. Ben, j'aime pas tout ce qu'il dit, j'aime une partie mais pas. Il dit ça.
Pourtant il est intéressant Benjamin Stora.
Oui.
Moi j'aime bon, bien, moi je trouve que c'est un bon historien.
Il y a une partie que j'aime, il y a une partie que j'aime pas. C'est dans ses idées. En tant que personne, il est excellent, il est extraordinaire. Mais et je veux dire, il le dit clairement que à un moment donné, il va falloir que. Enfin, il a dit, c'est dommage. Voilà, si je me rappelle très bien dans son ouvrage, il avait dit, ça aurait été sympa ou ça aurait été bien ou bénéfique aux autres communautés de s'inspirer en fait de la manière. De s'organiser de la communauté juive ici. Sauf que nous, on ne peut pas le faire parce qu'on est toujours, on traîne toujours avec nous ces casseroles. Donc ces casseroles qui sont identitaires, qui sont origines. Moi, j'ai vu plein de fois des personnes qui marchent dans la rue. Je veux dire, Marquis, il est né en France. Il a les codes français. Il va peut-être partir, je ne sais pas de quelle origine il est, mais peut-être qu'il est, on va dire qu'il est algérien ou marocain. Vous pensez que demain, il va aller vivre avec tout ce qu'il a appris ici, tout ce qu'il a construit ici. Il va partir dans un pays comme l'Algérie, penser qu'il va pouvoir vivre là-bas. Non,
tu plaisantes. Attends, Samir, excuse-moi de t'interrompre. Là, je crois que tu parles de ce que tu connais pas. Excuse-moi, hein, mais je connais une multitude de personnes qui sont nées en France et qui sont justement reparties en Algérie juste après le Covid. Certains avant même, juste après. Ils ont fait des projets. Des jeunes, des trentenaires, 35, 40 ans, qui sont partis. Certains sont même en couple avec des enfants et qui ont fait des projets, qui vivent là-bas. Je vois pas la différence. Elle est où la différence entre un Algérien qui vit en Algérie ou un Français franco-algérien qui vit en France? Elle est où la différence? Je vois pas de décalage. Il y a pas de d'explosion thermique, j'ai envie de dire, dans son cerveau. Mais elle est où la différence? Est-ce que tu as vécu un petit peu en Algérie? Est-ce que tu vis un peu en Algérie? Est-ce que tu pars souvent en Algérie? Je peux t'assurer que ils n'ont rien à nous envier. Mais vraiment, hein. Moi, quand je vais là-bas,
culturellement, c'est très appauvri.
Mais pas du tout. Excuse-moi. Qu'est-ce qui est appauvri?
En tant que femme, tu peux pas te baigner où tu veux.
Ah, bah si.
Faut dire.
Non, t'exagères. Alors là, t'exagères, hein. Attends. Quand tu dis culturellement, le nombre d'universités qui poussent comme des champignons, là-bas, ne pas avoir, par exemple, ne serait-ce que son bac. Si un enfant dans une famille n'a pas son bac, le nombre de bibliothèques, le nombre de centres culturels, le nombre d'universités, tout le monde a des bouquins sous les bras, tout le monde marche avec des valises de livres, etc., des ordinateurs, les cyber, il y en a partout, tout le monde a son ordi, etc. Mais tu ne peux même pas imaginer à quel point. Mais je peux t'assurer que même c'est complexant, même à la limite, pour beaucoup de nous ici, quand on va là-bas, tellement ils ont avancé en technologie, en tout ce que tu veux. Il y a des médecins qui viennent ici. Et quand ils viennent ici, ils travaillent dans les hôpitaux, et c'est eux qui donnent des cours à d'autres médecins qui ont fait leurs études ici. Et t'en as des tas qui font des ingénieurs qui viennent d'Algérie. Mais mon Dieu, les entreprises se les arrachent. Et c'est pour ça qu'on parle de fuite des cerveaux. Mais il faut arrêter de dire que culturellement, mais c'est faux. Ici, c'est vrai qu'ici, on fait moins d'études. Ici, on est moins, ambitieux, donc on traîne un peu la patte, etc. Mais en Algérie, mais tout le monde fait des études. Tu vas dans les montagnes les plus reculées, ils font des kilomètres à pied pour aller étudier. Tout le monde. C'est, là-bas, c'est juste pas possible de pas étudier. Même si les parents aujourd'hui de cette génération d'enfants, ils sont tous lettrés. Les parents tous, je veux dire, ils ont tous été à l'école, etc. Ils ont des bases. Mais bien entendu, arrêtez de sous-estimer ce que vous ne connaissez pas. Moi, je pars régulièrement là-bas. Je suis ébahie. Quand je vous dis ébahie, dans chaque foyer où je vais, les enfants, ça parle que d'études. Les parents, ils ont même pas besoin de dire t'as fait rien du tout. Les enfants, ils rentrent directement, ils te font la bise directement, ils vont dans leur chambre. Ah, il est où, tout ça, ton fils? Ah, il est dans sa chambre. Elle me dit, oh là là, il est avec ses livres, etc. Ils ne font que ça. Ils parlent plus de langues. Ils parlent plus de langues que nos enfants ici à nous. Ils parlent l'allemand. Moi, j'ai rencontré des enfants qui parlent le chinois, qui parlent l'allemand, qui parlent 3-4 langues. Montrez-moi ici les enfants qui parlent 3-4 langues. Ils sont où? Ils sont où? Et avec l'anglais, ils ont du mal. Ben voilà.
Les écoles privées.
Mais, en train de dénigrer.
Mais Samir, tu vis sur une
planète. Non, parce que ce que dit Vanessa, c'est vrai. Moi, juste par rapport à ma famille. Par exemple, j'ai un oncle, il est architecte. Il est venu en France. Aujourd'hui, il est architecte en France. Il a dû refaire ses équivalents. Il est très bien. Il gagne mieux que moi. Et j'ai mon cousin, pareil. Il a sa femme, algérienne, oui. Architecte. Elle est venue en France. Elle travaille, elle gagne mieux sa vie que moi.
Faut pas
tout mélanger.
Je suis pas en train de dénigrer. Beaucoup réussissent. L'école algérienne est très élitiste. Si on avait donné les moyens. Moi, je parle de l'Algérie parce que c'est mon pays. Mais c'est, là, on dévie un peu de notre sujet. Donc là, on parle un peu de ce qui se passe là-bas. Mais moi, ce qui m'intéressait, surtout Vanessa, c'est par rapport au racisme et les formes de discrimination et ce climat nauséabond et ce climat un peu anxiogène qui règne ici. Et comment peut-on en fait déconstruire ces idées? Donc on n'a pas du tout déjà à se justifier parce que une personne qui commet des infractions, on va dire qui fait des délits, tout ça, c'est pas parce qu'il est de telle origine qu'il fait ça. Donc la bêtise n'a pas de nationalité. Mais bon, après, je veux dire, c'est un sujet assez complexe, hein, donc très 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 complexe parce que là. Comme on est issu de l'immigration et qu'on vient d'une culture un peu différente et qu'on est obligé de s'adapter, et beaucoup s'adaptent et s'adaptent très très bien. La preuve, voilà, ceux qui interviennent dans ton antenne et tout ça, qui réussissent très très bien, qui parlent très bien, qui décrivent très bien leur situation et qui mettent vraiment les mots qu'il faut. Mais globalement,
oui.
Ce que je voulais dire, c'est que globalement, on ne peut pas continuer comme ça à subir, à donner notre flanc à chaque fois, à toutes ces frappes, à toutes ces... Pourquoi ? Parce que je ne sais pas si ça va être là ce que je vais dire ou pas, encore une fois, mais je pense qu'il faut vraiment que parfois, certains d'entre nous doivent être un peu plus discrets, doivent être un peu dans l'esprit républicain.
Plus discrets ?
Dans un pays.
Plus discret, on n'arrête pas de nous demander de nous effacer. Bientôt, on va se fondre dans les murs. Non, mais attends, discret en quoi? Il faut peut-être des associations. Il faut une force intellectuelle. Oui, une force qui soit là pour réunir. Ah ben oui, mais au lieu de blablater tout le monde, eh bien il faudrait que quand même quelques-uns justement prennent conscience et montent créent des associations, fassent des choses, fassent un travail pour pouvoir justement rassembler ces jeunes et faire quelque chose, aider peut-être certains parents qui sont débordés. Voilà, c'est à nous aussi de peut-être de les aider, mais
je suis d'accord avec toi.
Tu comprends?
Je veux dire que demain pour nos enfants, nous il y a quelques années, c'était quand même bon, ça va être pire de pire en pire pour nos enfants qui veulent demain réussir et tout ça, sans vraiment être préoccupés par tous ces problèmes-là liés au racisme, aux discriminations et tout ça. Il y en aura toujours, de toute façon.
De toute manière, tout ce qui est... Moi, je vais vous dire une chose. Et franchement, je le pense, Il y en a plein qui le pensent, surtout ceux qui sont nés en France, qui sont sur la deuxième ou troisième génération. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez avoir une très bonne place. Vous pouvez avoir une haute hiérarchie, peu importe. Malheureusement, en France, en tant que fils d'immigré ou de, d'une génération, peu importe, vous devrez toujours vous justifier que vous vouliez ou non, que ce soit en bien ou en mal.
Est-ce que c'est très important,
se justifier parce que c'est...
Non, c'est pas une question importante.
Mais ce que je veux dire, c'est que même si vous... Vous ne voulez pas vous justifier, on va vous le demander de justifier. Moi, par exemple, je travaille dans une entreprise et à chaque fois, quand on me demande mon prénom, on parle avec moi, on me demande toujours, tu viens d'où ? Alors moi, pour en rire, je dis, bon, je viens de Saint-Denis. Oui, oui. Et après, ils me disent, non, mais tu me comprends, tu viens d'où ? Après, quand je leur pose la question, mais si je m'appellerais, par exemple, Patrick ou François, peu importe, hein, juste pour piquer un petit peu, et ben, ils me disent, bah, oui, c'est vrai. Vous voyez ce que je veux dire?
C'est pas voulu.
C'est culturellement.
Je tutoie.
C'est qu'en France, en fait.
Je te tutoie, Barthes, excuse-moi. Mais je peux tout à fait dire.
On nous demande.
Oui, je sais, mais rien, il n'y a rien, absolument rien qui t'oblige. Quand tu es compétent, que tu es à ta place et que tu sais faire. Parce qu'il y a des leviers. C'est pas, on ne s'arrête pas aux personnes. Il faut s'arrêter aux lois. On a quand même, on a la chance d'être dans un pays où il y a des, il y a eu des combats. Il y a eu des combats pour qu'il y ait des droits. Il y a eu des luttes pour qu'il y ait des lois. Il y a eu des leviers. Il y a des leviers.
Je suis d'accord avec vous, mais entre la loi.
Demain, je suis face à un raciste et je le renvoie à sa contradiction parce que nous sommes dans un pays d'égalité, quel que soit, hein, parce que il faut vivre ailleurs pour se rendre compte qu'on est quand même, on a un certain nombre de droits et tout ça. Nonobstant ceux qui disent voilà. Mais donc quand on revoit ces personnes-là, leurs contradictions, et quand on est compétent, moi je n'ai pas besoin de rentrer dans les détails. Je suis dans l'échange, je suis dans l'ouverture, dans le vivre ensemble. J'accepte l'autre personne avec sa différence ou avec sa. Je pense que nous on manque parfois de ce genre. On est un peu parfois dans le rejet.
Je pense souvent qu'on nous demande de se justifier. Nous on veut pas se justifier parce qu'on se dit bon. On est là, on vit là, on se fait petit. Et vraiment, je vous le dis, hein, sincèrement, majoritairement, les personnes, on leur demande de se justifier.
Dans le monde, tu vas devoir te justifier.
Parce qu'il y a des pays où, au contraire, l'immigration, c'est une force. Mais en France, malheureusement...
Est-ce que tu as vécu en Grande-Bretagne, par exemple?
Je vous dis une chose. Hein. J'ai voyagé, je vous assure.
Ah oui, voyager, c'est autre chose que vivre.
Non, mais tu sais... C'est pas d'une semaine, hein, c'est de plusieurs semaines. Ce que je veux dire, c'est que vraiment en France, c'est particulier. Quand vous êtes issu de l'immigration, on doit se justifier. Quand vous êtes dans d'autres pays,
Samir, on peut pas dire que Bach a tort. Parce que ce qu'il dit là,
non, il n'a pas tort, mais
on le constate. Et quand tu parles de la Grande-Bretagne, on connaît beaucoup de personnes qui soient musulmans ou autres, hein, peu importe, en tous les cas, qui soient maghrébins, par exemple, qui vivent en Grande-Bretagne, et qui te disent c'est différent, qui ont vécu en France, et qui font la comparaison, et qui te disent que c'est différent. On parle pas des lois, parce que toi, tu parles des lois. Bien sûr que les lois de la République, elles sont très bien, elles sont parfaites. Non, mais attends. Entre ce qu'il y a sur le papier et la réalité, il y a un fossé. Oui. Tu le sais, ça. En Grande-Bretagne, je suis désolée, ce qui est sur le papier, eh bien, les gens, à l'extérieur, il y a la pratique. C'est-à-dire que les gens ne te voient pas dans ta différence. Là-bas, un hindou, il a son turban, les gens le voient comme monsieur tout le monde. Ils ont eu même un premier ministre, un hindou. Je veux dire, et c'est un peu partout pareil, quoi, quand tu parcours un petit peu l'Europe. Mais c'est vrai que ce que dit Bach, hormis les lois qui sont parfaites, on n'a rien à dire, dans la réalité des choses, dans la société, c'est différent, et que la France, c'est quand même assez particulier, quoi. On le voit et on le sent. Il y a un espèce de mauvais regard concernant, en tous les cas, la communauté maghrébine en particulier. Ça, on peut pas le réfuter. On le voit. Bah, combien de mamans me disent mes enfants, mon fils, voilà, il s'est donné à fond, il travaille bien, il a des diplômes et tout, mais il rame parce que il s'appelle Samir ou il s'appelle voilà. Et les gens le non, disent. Tu comprends? Il s'accroche.
Mais il y a même des reportages, il y a même des gens qui ont changé leur nom et leur prénom.
Ah, oui, oui, ouais.
C'est un constat. C'est un constat. C'est réel. Et,
mais,
après, on ne dit pas que la France. On ne dit pas.
Mais c'est
non, mais se battre. Comment voulez-vous battre quand on voit à chaque fois vos origines? C'est ça le truc. C'est que vous pouvez faire ce que vous voulez, pour l'instant on n'est pas prêt.
Faut pas que ça
je pense que là on est en pleine mutation.
C'est pas très important. Est-ce que c'est important qui te renvoie?
Bien sûr que c'est important. Mais bien sûr que c'est important quand même de subir ce mauvais regard ou ces a priori. Tu le vois? Et des fois, t'as des
Là, je vais vous raconter un truc, c'est vraiment véridique. J'ai une sœur, un très bon statut. Elle gère un grand truc, une grande entreprise, tout ça, d'accord. Ils l'ont monté d'échelon, tout ça. Elle gère toute l'île de France jusqu'à Montpellier, d'accord.
Oui.
Bon, du jour au lendemain, elle a voulu porter le voile, mais bon, elle s'est dit, bon, je vais mettre le turban, d'accord, pour pas trop choquer.
Ça la regarde.
Le jour où elle arrive au boulot, parce qu'ils l'ont vu pendant 20 ans avec les cheveux à l'air, parce qu'elle aimait bien, c'est son problème, hein. Et là, elle a voulu porter le voile et mettre le turban. C'est un choix.
Ouais,
c'est un choix. Le jour où elle a mis son turban, je vous assure que le soir, quand elle est rentrée, elle a pleuré.
Ben voilà.
Parce qu'elle a mis un turban.
C'est
un
turban.
Samir, ça fait partie.
Je vais te dire une chose.
Alors, je vais aller plus loin. Il y a quelques années en arrière, j'ai une amie qui malheureusement elle a traversé un moment difficile par sa santé, hein, voilà, elle a eu un cancer, voilà, qui s'est bien après qui a disparu, tout va bien maintenant, alhamdoulillah yarbi, mais à l'époque elle a perdu ses cheveux et donc elle mettait en parlant de turban, un turban un peu, tu sais, comme élastique là au-dessus de la tête, hein, elle a porté ça. Et du jour au lendemain, parce qu'elle était malade, eh ben on lui a fait beaucoup de réflexions, du genre ça y est, tu t'es islamisée, enfin des réflexions, mais vraiment très très déplacées, alors qu'elle était malade, quoi. Enfin tu et ça tout de suite, hein, elle a subi. C'est pas faux. Attends, ne partez pas, on a une petite pause, à tout de suite.
Confidence revient dans un instant. 21h, 23h, Confidence, l'émission sans tabou avec Vanessa sur Beurre FM.
Au 01 53 48 3000 et on reprend avec Bac et Samir.
Oui.
Et alors vas-y, comme ça on va prendre d'autres amis qui sont en attente. Vas-y, avec nous.
Je disais, Vanessa, c'est que je pense que là tu parlais de enfin je tutoie, hein, est-ce que c'est
oui, on se tutoie. Non mais c'est d'abord c'est la politique de l'émission. On se tutoie.
De la maison.
Oui, de la maison de l'émission même, je dirais.
Alors donc je disais que toi tu parlais, en fait moi j'ai un autre point de vue par rapport à au voile, par rapport justement, ça fait partie un peu des trucs, enfin je veux dire des signes ostentatoires qu'on porte et qui sont plus de l'identitaire que du religieux, qui sont plus un peu se démarquer pour dire que j'ai une identité autre et tout ça. Bon, je pense qu'il faut vraiment qu'on ait une approche un peu plus apaisée à un moment donné. Il faut qu'on soit un peu en paix avec nous, en paix avec les gens avec qui on vive et tout ça. Il faut dire aussi que le racisme est aussi alimenté parfois par l'histoire en commun qu'on a eue avec la France, par le colonialisme, par les récits qu'on nous a toujours dit, par la lutte contre. Bah, je veux dire qu'à un moment
donné, sais pas. Il y a toujours une. On arrive toujours à trouver des raisons et des causes, mais en réalité, est-ce que la bêtise, elle a un début? Parce que c'est là qu'il faut se poser la question. Parce que le racisme provient de la bêtise, de l'ineptie. Donc pour moi, c'est on essaye de trouver toujours. Oui, colonialisme, etc. Mais par exemple, l'antisémitisme, c'est de la pure ineptie. Tu vois, c'est de la bêtise à l'état pur. On déteste un peuple, une communauté de par leur religion. Pourquoi? Va poser la question aux gens, ils savent même pas le pourquoi du comment. Alors c'est de la pure bêtise, l'antisémitisme c'est pas du colonialisme, ça. Donc le racisme, c'est pareil, le racisme anti-noir, le racisme anti-chinois ou anti-asiatique, l'homophobie. Et l'homophobie, c'est quoi le point de départ? On peut puiser dans les religions, dans tout ce qu'on veut. L'homophobie, combien d'homosexuels se font tabasser passer pour leurs différences. C'est pareil, tu vois. Encore oui. une fois, le sexisme, et encore, on
le
peut...
Le sexisme, combien de femmes, en fait, se font frapper, se font violenter, se font violer parce qu'elles sont tout simplement femmes. Donc, je veux dire, à un moment donné, voilà, donc il faut vraiment qu'on soit honnête avec soi et qu'on va pas non plus... interdire aux autres, je veux dire ce que ou refuser aux autres ce que nous on réclame, je veux dire certains réclament la justice et qu'on soit pas raciste envers nous, ne soyez pas non plus antisémites, ne soyez pas sexistes, ne soyez pas non plus après voilà. Mais... je veux dire.
On est toujours l'être humain, non mais c'est pas la communauté.
Et on a beaucoup de chez nous qui viennent reproduire un système ici en France. Ils viennent ici. Pourquoi l'immigration, c'est pas quelque chose de facile. C'est très douloureux, l'immigration. Abdelmalek Sayed le disait, qui était d'ailleurs, qui venait de temps en temps chez Beurre FM. La double absence, on est là. Parce que nous, moi, je le vis. J'ai fait 25 ans que je suis en France. J'ai perdu mes repères. Et je veux dire que ce que tu disais ici, si, je ne me sens pas chez moi. Parce que je ne suis pas né ici, mais quand bien même je viens de ce pays. Mais je veux dire que je ne suis pas là pour reproduire le système que j'ai fui. Pourquoi alors j'ai fui alors beaucoup de gens viennent ici pour reproduire le même système qu'ils ont fui. C'est un peu contre-productif. Et on n'est pas là pour s'épanouir, si on n'est pas là pour avancer, si on n'est pas là pour... Et puis, même s'il y a tous ces obstacles et tout ça, à un moment donné, encore une fois, il faut vraiment qu'on soit dans une démarche apaisée. On n'est pas dans dans un truc ni de vengeance.
Apaisé, bien sûr.
Le respect, tout ça.
Le respect de l'autre, c'est ça qui est important, c'est le respect de l'autre, de l'existence. Parce que, refuser, c'est dénigrer l'autre de par son origine, sa religion, tout ce que tu veux, c'est nier son existence. Et ça, c'est terrible. C'est nier l'existence de l'autre.
C'est ça. C'est exactement ça. Mais c'est, et combien de fois.
Mais en même temps, Bach a raison aussi. Toi, tu as raison sur certains points, mais Bach a raison aussi parce que il parle d'un vécu. Il parle d'un vécu. Et quand tu dis, par exemple, l'histoire du foulard que sa sœur, elle porte, si on se veut tolérant, mais vraiment tolérant, et si on se veut ouvert, parce que t'as des personnes qui disent, moi, je suis ouvert, je suis tolérant, etc., j'accepte tout le monde et tout. Mais par contre, quand tu leur parles d'une femme qui porte le foulard, ah oui, mais ça, quand même, elle devrait s'adapter ou je ne sais quoi, etc. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, là, c'est de l'intolérance. Ou t'acceptes, c'est pas violent, s'il n'y a pas de violence, si une femme, elle veut.
Non, c'est pas une question. Attends,
je ne défends pas le port du foulard, je ne le porte pas. Mais je défendrai une femme qui le porte parce que c'est son choix. Tu comprends?
Non, mais.
De quel droit, je vais la juger?
Je vais te dire une chose. Bon, il faut juste prendre en compte quelque chose de très important dans ce pays. Le débat au niveau de la laïcité. Ici, en France, les gens sont morts pour qu'il y ait la laïcité.
Oui.
Si vous lisez l'histoire, il y a eu quand même beaucoup de combats.
Bien sûr.
Il y a eu des gens, c'était assez violent.
Mais
par exemple, vous avez dans les Pyrénées l'exemple des quand il y a eu la décision appliquer la laïcité, que les villageois allaient en fait avec leurs jours en fait pour protéger le curé et tout ça. Et c'est quand même assez violent. Maintenant, on a mis ces curés dans leur lieu donc de prédilection, qui sont les églises et tout ça. Et à un moment donné, les sœurs, on les voyait pas. Elles sont pas. Ils disent, elles sont laïques. Les femmes dehors, elles sont laïques parce qu'elles portent pas le voile. Celles qui portent le voile, ce sont des femmes qui sont au service de Dieu. Elles sont dans la religion. Ça perturbe un peu quand on voit une femme qui porte un voile. Combien de l'islam, hein, ça n'a absolument rien à voir.
Non, mais justement.
Dans l'imaginaire, ça prend une autre proportion. Dans l'imaginaire des gens qui sont.
Bah, l'imaginaire.
Dans l'imaginaire.
Bah ouais, mais il faut qu'ils soient dans la réalité un peu, les gens.
On est laïque, on sait pas.
Mais attends, Samir, attends, excuse-moi, Samir. Les gens, il faut qu'ils. Il faut qu'ils reviennent à la réalité.
Personnelle.
Non, mais c'est quoi la laïcité? La laïcité, ça ne veut pas dire pas de religion du tout. Au contraire, la laïcité, c'est-à-dire le pays protège toutes les confessions. C'est-à-dire que tu pratiques ta religion en toute liberté, tranquillement, bien sûr sans faire de prosélytisme, etc. Mais en toute liberté. Alors donc, si tu as le droit de pratiquer ta religion tranquillement, apaisément, ça veut dire que tu respectes la laïcité. La laïcité ne veut pas dire pas de religion. Attention, non. Et une femme, je suis désolée. une femme qui porte un turban, comme disait. Si elle porte un turban parce qu'elle veut se cacher les cheveux, comme les femmes juives qui portent des perruques, eh bien tout ça serait. Mais tout le monde se respecte.
C'est une question démographique.
Ah bah voilà, alors voilà, maintenant on va nous parler de nombre.
On ne peut pas dire ça parce qu'en France, on va dire qu'il y a un historique.
Toutes les religions se respectent. Oui.
Chrétiens, d'accord. Les femmes, encore aujourd'hui, chrétiennes, et moi j'en ai des fois, je les ai comme clients, apportent le voile. Donc il faut arrêter avec ça. En fait, qu'est-ce qu'on veut en France? On veut quoi? Que on veut, en gros, éradiquer la religion? Toutes les religions? C'est ça qu'on veut, c'est ça la laïcité, je pense pas.
C'est même pas religieux, le voile. Attends, parce que au regard de certains, on n'y voit pas de religion dans le voile. Mais maintenant, si ces femmes décident de le porter, même culturellement, pourquoi pas? Il y a des pays où culturellement, elles portent le voile. Tu as par exemple.
Les ziganes, ils portent le voile.
Voilà.
Les ziganes, ils portent le voile.
Mais
vous allez dans la France profonde. Vous allez dans la France profonde, je vous assure. Il y a des femmes encore avec le tablier et avec un petit poil sur la tête.
Alors,
ça s'arrête pas à l'île de France.
Alors, toi, justement, tu es jeune, tu n'as pas connu certaines années, mais si tu parles à tes parents, peut-être qu'ils ont connu ou leurs parents ont connu les années en France où les femmes ne sortaient pas tête nue. Il y a pas si longtemps, les années 60, les années 70, les femmes portaient un fichu, hein, un carré de soie. C'était la grande mode. Regardez, allez voir dans les archives de l'époque, les femmes.
Elles le portaient pour un motif religieux, c'est ça en fait.
Comment on sait que c'est religieux? Est-ce que c'est une burqa?
Un voile, mais de toute façon, si une personne apporte un voile ou un vêtement, peu importe, ça change quoi à l'être humain, s'il vous plaît? Ça change en quoi? Moi, une personne qui est gothique ou qui est d'une autre manière ou tout ça. Pourquoi on s'arrête à
une personne qui ne porte pas le voile?
Est-ce que le fait
plus confiance à une personne qui porte le voile ou qui porte pas le voile? Peu importe le sens qu'on cherche. Hein. Vous avez confiance quoi? De vue? Vous allez avoir plus confiance à une personne qui a le voile ou pas le voile?
De la religion. Hein. Excuse-moi, je vais te dire quelque chose.
C'est que vous. Dans notre religion,
on a besoin de gens courageux qui vont réformer, qu'on reste pas à ce genre de petits détails qui sont complètement insignifiants.
Je suis d'accord, mais Samir, tu trouves pas que c'est porter atteinte à la liberté, justement, à cette liberté chérie dont tu parlais tout à l'heure, où il y a eu des gens qui sont morts pour cette liberté de pouvoir se vêtir, de pouvoir vivre librement et porter un vêtement. C'est pas agresser les gens que de porter un vêtement. Une femme qui porte un foulard. En quoi elle t'agresse, toi ou moi? Moi, je vois pas en quoi elle nous agresse. Je vois pas.
Va pas nous donner un coup.
Moi, je trouve que cette femme, c'est nous qui l'agressons en lui reprochant de se vêtir comme elle l'entend. L'agression, tu comprends?
La liberté individuelle, oui. Écoute, je vais te dire une chose. Moi, je ne suis pas contre. Il faut vraiment que c'est une liberté individuelle et tout ça. Juste qu'à un moment donné, on s'adapte et qu'on ne s'arrête pas à ce genre de débat.
S'adapter à quoi? C'est ça, je voudrais comprendre.
On a dit que c'est un signe ostentatoire de.
Mais on te l'a dit.
Qui l'a dit? Il faut connaître la loi en France. Qui l'a dit? Vous connaissez la loi en France?
Les autorités, par rapport aux distinctions?
Non, mais vous connaissez ou pas la loi ou pas, monsieur?
C'est pas la burqa. En France, on n'a pas le droit de cacher son visage. Mais là, elle porte un petit fichu.
Depuis 91 ou 92 qu'il y a le débat. Depuis quasiment 30 ans maintenant qu'on nous bassine avec cette histoire. À un moment donné, il faut qu'on arrête.
Ça c'est les médias. Alors ça c'est les médias.
Mais pour l'instant.
Mais pourquoi ils auraient raison? D'ailleurs, tu sais ce qu'ils disent certains dans certains médias, ils te disent de changer ton prénom. Ils ont raison aussi. Alors change ton prénom. Tu vois? On en est là. Tu sais, à force de courber les chines et de dire il faut s'adapter, s'adapter à quoi? Tout le monde est adapté, il y a pas de problème, personne n'agresse personne, hein, tout va bien. Mais à force de courber, à un moment donné, peut-être que ces gens, s'ils arrivent au pouvoir, ils vont réussir à imposer le fait de changer son prénom, comme un certain Z qui l'avait d'ailleurs proposé.
Bien sûr, bien sûr. En fait,
ça peut, tu sais, ça peut aller loin, Samir. Hein.
Marché dessus.
Oui, je sais, mais c'est pour ça que moi, je ne vois pas la chose de la même manière que toi. Donc, Vanessa, moi, je pense que justement, pour justement pouvoir éviter à ce que ça aille loin, on va dire, nous aussi, on est dans l'apaisement. Ah oui, ça, c'est... Bon, on le fait, ok, ça, c'est pas grave. Bon. Mais on peut aussi nous orienter vers d'autres choses beaucoup plus intéressantes, comme je disais tout à l'heure, le savoir, le truc. Faut pas non plus se voiler la face.
Mais attends, juste une chose, Samir, je suis d'accord avec toi sur plein de choses, mais bon, juste une chose. Le savoir, ces gens font des études. Juste une chose. Certaines femmes, comment dire, si tu leur rends, voilà, elles se sentent comme ça. Moi, je peux comprendre. Moi, je te dis, je porte pas. Mais je peux comprendre, tes sœurs sont voilées. Je peux comprendre qu'une femme, si tu lui demandes de découvrir ses cheveux, eh ben ça, c'est comme si elle était nue, ça la dérange au plus profond d'elle. Alors, attends, si cette femme, ça la dérange au plus profond d'elle-même, est-ce qu'on a le droit de lui imposer de, pour elle c'est comme si tu la dénudais, est-ce qu'on on est tu vois, il y a des pays ils l'ont compris, tu parlais de l'Angleterre, tu, il y a pas de souci avec ça, hein, ailleurs aussi, hein, dans beaucoup de pays, mais en France,
mais
souvent c'est pas
la même histoire avec la laïcité, ils ont pas la même histoire,
mais la laïcité, mais la laïcité
des pays.
Mais la laïcité t'empêche pas de vivre ta religion, encore une fois, tu vois, en tournant.
Mais ça t'empêche pas de vivre ta religion dans le domaine privé. C'est pour ça que les prêtres, on les a confinés dans leur.
Mais pas faire la prière dans la rue.
Il y a autre chose aussi. Au-delà de cela, au-delà. Qu'est-ce que ça nous rapporte? Est-ce qu'on a une plus-value en faisant ça? Je suis là,
de
je
quoi
suis musulman. Je...
Mais,
on fait, les, pourquoi
mais je te dis, il y a de la pudeur. C'est pas, elle dit pas, je suis musulmane. Il y a de la pudeur. Et tu peux pas. Moi, j'ai parlé avec des femmes, on a discuté, etc. Et ben, pour elle, c'est quelque chose de, d'intime. C'est intime.
On n'arrête pas.
Non, mais c'est intime.
Nous-mêmes, on porte à chaque fois atteinte à cette religion.
Non, c'est pas atteinte à la religion.
Vas-y. Je vais te dire, excuse-moi pour ce que je vais te dire. Hein. Je veux dire, c'est pour ça que je t'ai dit, il faut vraiment qu'à un moment donné, qu'on réforme d'une manière un peu claire les choses, qu'on laisse pas, parce que cette religion,
c'est quoi,
elle, on la met entre des gens qui sont complètement juhala et qui sont complètement, ils font ce qu'ils veulent et on en fait ce qu'on veut. À un moment donné, l'homme, il est porteur d'idées. Alors moi, il y a quelqu'un qui vient pour boire, c'est une autre personne qui boit et qui lui fait toute une leçon de morale parce qu'il boit un verre de vin. Ou un truc et en même temps de
ça
l'autre
aussi,
côté lui
ça aussi Samir
jupon.
Ça aussi voilà. Je suis contre non, c'est, ça, ça aussi je suis contre
jupon.
On n'a pas
de jupon de première
non faut pas être dans le jugement
tu lui dis
Samir mais non, attends on n'a pas si tu peux attends non si tu écoute si même ça je suis contre, je suis tellement pour la liberté individuelle, tu peux pas t'imaginer à quel point à partir du moment où ça dérange pas l'autre, eh bien que celui qui a envie de boire un verre ou deux verres ou je sais pas, enfin faire attention à la santé, c'est pas bon l'alcool, mais bon, celui qui veut boire un verre eh bien il est libre. Mais bien sûr qu'il est libre, on n'a pas le droit de juger les gens. Ça aussi, je suis d'accord avec toi. Parce qu'il y en a qui s'octroient le droit de venir faire le rappel en disant tac, 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 reviens à la prière et tout. Mais qui n'aimeraient pas qu'on les juge comme toi, tu tiens ce discours. Eh bien, dans un sens comme dans un autre, tout le monde devrait respecter tout le monde. Fut un temps, bon, je me souviens en Algérie, avant les années 90, j'étais gamine, je partais en vacances avec mes parents en Algérie, en famille, on partait. Mmh. Eh bien, on s'arrêtait en cours de route, après l'aéroport, etc., avant d'aller jusqu'à Cherchel. Eh bien, s'arrêtait une terrasse, nous les enfants, on prenait des glaces, les parents prenaient un jus de fruits, etc. La table d'à côté, t'avais des gens qui prenaient une bière. Tu vois, il n'y avait pas de problème. Et puis, il y avait la mosquée juste en face, celui qui veut aller à la mosquée. Qui va à la mosquée, celui qui prend une bière, il prend une bière. Mais aujourd'hui, tout le monde juge tout le monde. Ah, l'autre, il fait la prière. Ah, l'autre, elle porte un foulard. Ah, l'autre, il a pris une bière. Tu vois, tout le monde juge
alors,
tout le monde.
Passé,
moi, je suis contre tout ça. Voilà. Je suis pour la liberté totale.
Qu'est-ce qui s'est passé alors? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on soit vraiment dans cette démarche un peu plus.
Eh bien, on a régressé. Voilà, on est en train de régresser. Tout le monde surveille tout le monde.
Dans l'acceptation de l'autre. Le soir.
Bah, même toi, tu dis, oui, aujourd'hui, il faut s'adapter et t'es contre le foulard alors que tu devrais être ni pour ni contre. Être neutre, ça te regarde pas et ça me regarde
pas. J'essaie de réfléchir avec toi. On est en plein réflexion. Je ne suis pas contre, je t'ai dit encore une fois, je ne suis pas contre. Mais est-ce que c'est très important pour nous?
Pour elle.
Pour certaines femmes,
pour elle, oui, pour elle. Oui, pour elle.
Voilà. Peut-être, certainement, sûrement, c'est pour ça qu'elle le porte.
Ah ouais.
Mais à un moment donné,
Pourquoi en Afrique, les femmes, il y a des Africaines qui portent le boubou, et même en France, elles se couvrent la tête avec leur habit traditionnel. Alors, c'est leur habit. Oui, t'as des Indiennes, oui, c'est pareil. Ça,
c'est, le boubou, c'est culturel.
T'as des femmes juives, par exemple, qui portent le, comme je disais tout à l'heure, qui se couvrent les cheveux avec une, peu importe. Des fois, elles portent un chapeau, des fois, elles portent une perruque. Et ça, ça se respecte. Je veux dire, chacun porte ce qu'il en vit.
Oui,
voilà.
Ça, c'est culturel. Le boubou, il est culturel. D'accord. Donc, le voile, il ne l'est pas. Il ne l'est pas du
oui,
tout.
Mais
d'ailleurs,
peu
c'est quelque chose de.
Peu importe.
Même pour nous, c'est quelque chose de nouveau. Moi, je l'ai vu arriver dans les années 80, cette histoire de voile.
90.
En Algérie. Ah non, mais en Algérie, c'était dans les années 80.
Oui, en Algérie, mais 90, c'était.
Au lycée,
juste après.
Et elles ont commencé, en fait, à excuse-moi, moi, je veux dire, j'ai
ouais,
eu tellement
ouais.
de personnes autour de moi
D'accord.
qui venaient autour de nous. Elle n'avait que la religion à donner. En fait, elle n'a pas d'autres. Ces personnes-là n'avaient absolument aucun. Heureusement qu'on a en soi peu d'instructions qui nous permettaient aussi bien en arabe et en français pour qu'on puisse aller chercher l'information par nous-mêmes. Mais sinon, pour nous mettre un peu sous le joug de cette personne-là qui est devenue, je ne sais pas, Dieu sur terre, il faut faire ça, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça.
Ah, oui, ça aussi, c'est horrible. Les personnes qui viennent te dire, fais pas ci, fais pas ça. Non, mais c'est horrible, c'est horrible.
Oui.
Ah oui, non, mais ça, je suis d'accord avec toi. Voilà, quand on est pour la liberté, pour soi, il faut aussi l'accepter
et
respecter l'autre.
Religion,
alors, attends, on va prendre. Voilà, on va prendre d'autres amis avec nous, si tu veux bien. Donc, on a Fatima de Paris, Habibti, je crois, c'est Habibti.
Habibti, bonsoir.
Bonsoir c'est Habibti, bonsoir. Tu veux
Comment
participer,
va
ça va, oui, très bien.
Je vais brièvement participer.
Alors vas-y, vas-y.
Et comme disent les jeunes, je me casse.
Non, tu te casses pas, tu restes.
Je vais te dire une chose. Si vraiment la France veut qu'il y ait plus tout ce genre d'histoire de foulard anti-musulman, c'est-à-dire cette... cette fixation sur les Maghrébins, il y a une quinzaine maximum de personnes qui squattent les plateaux tous les jours. Tous les jours, c'est l'islam, les musulmans, les... Montrez-moi un pays où il n'y a pas de prison, il n'y a pas de faits divers, il n'y a pas de criminels, un pays. Tu connais, toi ?
Non.
Non. Là, en France, dès qu'il y a quelqu'un d'origine maghrébine, qui fait une bêtise, un crime, un drame ou je ne sais pas quoi. Depuis ce matin, surtout il y a deux radios et télé, c'est 3h et 3h. C'est sur le drame de Ripoll ou je ne sais pas,
oui,
alors qu'il
oui,
paraît
oui.
que c'est français. Donc, je vais te dire une chose. Même nous, Maghrébins, il y a eu des moments où je commençais à avoir peur. Je te dis franchement. Parce que j'avais... Il y a 10 ans de ça. Hein. Pourquoi ? Pourquoi ?
Oui.
Je vais te dire une chose. C'est une propagande. C'est une propagande. Il n'y a rien du tout. Moi, personnellement, je ne connais pas de fanatiques. Je ne connais pas de famille où il y a des brebis. Wallah al-Hadim, je ne connais pas. Dans les banlieues. Il y a des brebis galeuses. Ils les mettent en avant, comme partout. En Algérie aussi, il y a des gens qui tuent, il y a des criminels, il y a des prisons.
Aux États-Unis, c'est le pays où il y a le plus de criminalité,
Exactement.
Et les prisons, les couloirs de la mort.
Je vais te dire une chose. Le problème de la France, c'est les médias. Ce n'est ni les musulmans, ni les chrétiens, ni les juifs.
Ah oui,
c'est les médias, et c'est une quinzaine de personnes, je dis bien, qui squattent tous les jours.
Et qui mettent les communautés les unes contre les autres.
Écoute-moi tout
c'est
à
terrible.
L'heure ce qu'a dit Elisabeth Lévy. Quand quelqu'un lui a dit celui qui a tué
jeune Thomas.
Le jeune Thomas.
Ouais, le pauvre garçon.
Il a dit les Français et sa mère est française, elle a parlé à la télévision et tout. Elle lui dit maintenant c'est culturel. C'est-à-dire il est en banlieue. Donc c'est culturel.
Ah ouais, d'accord. Il faut absolument.
Pour une référence, on n'en sort pas.
Excusez-moi. Je ne fais pas une référence. Mais moi, je sais que H24, qu'est-ce qu'elle est ? Excuse-moi, Vanessa.
Oui.
Marion Maréchal, qu'est-ce qu'elle est ? Est-ce qu'elle est députée ? Est-ce qu'elle est de la politique ? C'est un parti je ne sais pas quoi dire. Alors, aujourd'hui, elle a été invitée partout. Zemmour, il a été invité partout. Hein, parce que maintenant, c'est devenu des saints. Hein. Pourquoi? Parce que les musulmans, les maghrébins, les Algériens en particulier...
Mais c'est parce qu'on te laisse faire aussi.
Hein? Non, mais on n'a pas le choix. Ah oui, c'est vrai. Je vais te dire une chose. J'étais pas d'accord, tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Pourquoi on ne se laisse pas faire? Parce que les musulmans, au lieu d'acheter des trucs de télé, des chaînes de télé, de radio ou de ceci, eh ben ils achètent des équipes de foot. Hein? Parce que si on avait les médias, parce qu'il faut le reconnaître, c'est une question de médias. Tous les jours, les Arabes, les musulmans, moi je ne suis pas concernée, ni par la violence, ni par le fanatisme. Je suis à bête du chapeau.
Fatima, c'est très 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 important ce que tu dis. Vraiment, on est bien parti là parce que ce débat qui est, je dirais pas contradictoire, vous regardez dans la même direction. Bon, Samir qui a ses idées, toi les tiennes, qui rejoignent. Il est plus là, Bac. Mais on est avec. Il y a Fatima de Stein, Sabrina, tiens, de Grenoble aussi, Karim Danière également. Bah écoutez, je vous mettrai tous ensemble tout à l'heure et puis on va continuer ce débat. Débat qui est très 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 important, peut-être qu'on va essayer de comprendre un petit peu pourquoi. Pourquoi tout ça? Pourquoi ce climat? Juste après cette petite pause, si vous voulez bien. Ok? Allez, à tout de suite.
Confidence revient dans un instant. 21h, 23h, Confidence, l'émission sans tabou avec Vanessa sur Beurre FM.
Ah, quelle est belle cette chanson! Elle est magnifique, n'est-ce pas? Bah oui, c'est une de mes chansons préférées que je chantais quand j'allais au karaoké. Ah ouais, c'était ma chanson. Personne n'avait le droit de la chanter. Quoi? Notre amour de feu ne resterait que des cendres. Moi, j'aimerais, le passage que j'aime le plus, c'est moi. J'aimerais que la terre s'arrête pour descendre. Ah oui, il y a des fois où, l'aladim, je vous jure que c'est vrai. Ce passage, je le chante, mais alors, avec mes tripes. Parfois, j'aimerais que la terre s'arrête pour descendre, parce que j'en peux plus. Je n'en peux plus de ces humains. Alors, Samir est là. Bac, il est plus là. Fatima, elle est là. Qui c'est qui manque? Qui c'est qui manque? Ben voilà. Samir, t'es là. Heureusement que t'es là. Hein. T'es fidèle. Hein. On a Sabrina de Grenoble et Karim Danière. Bon, bonsoir Karim, bonsoir Sabrina.
Tu vas?
Bonsoir ma Sabrina.
Bonsoir ma Vanessa.
Ah, je suis plus ta rose. Il n'y a que ça, hein.
Oui, je dis ma rose.
Ah, ma rose. Il n'y a que toi qui m'appelles ma rose.
Bonsoir Sabine.
Je n'ai pas dû dire ma rose.
Bonsoir Habiti.
Bonsoir.
Qui c'est qui a entendu? Alors, qui c'est qui
a entendu dire ma rose?
Qui c'est qui a la radio d'allumée?
Ah, c'est pas moi.
C'est Fatima.
C'est pas ouais. Moi non plus. Hein.
Non, non, c'est Fatima parce que, regarde. Ah non, c'est Samir. Samir. Non, c'est pas Samir. C'est Karim. C'est Karim. C'est Karim. Ouais, c'est Karim. Karim, c'est toi. T'as la radio d'allumée. Parce que quand je regarde, quand je t'arrête, on n'a plus de radio. C'est toi. Ah si, j'ai les moyens de... Tu sais, le détecteur de mensonges, il est face à moi. On ne peut pas mentir. Hein. Ah ouais. Aïe, aïe, aïe. Ah ben voilà, on est avec Samir, on est avec Sabrina, Karim Danière, Fatima de Paris. Waouh! Ah, j'ai les meilleurs, là.
Ça va être chaud.
Ah, j'ai l'équipé sauvage. Oui.
Oui, Vanessa, en deux mots, moi, vite fait, parce que je veux pas trop prendre l'antenne.
Ah bon, qu'est-ce que tu vas nous dire encore? Belek, hein?
Oui, Belek, comme tu dis. Ouais. Moi, je suis un peu d'accord avec Samir. J'ai compris sa vision des choses.
Ah ben ça,
je vais t'expliquer. Et je vais t'expliquer mon vécu, Vanessa. Tu sais, tu me connais. Moi, je vis à l'européenne.
Faut m'expliquer le concept. Je vis en terrienne.
Mon fond n'est pas maghrébin, n'est pas arabe.
Oh là 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 là, Sabrina.
Tu sais que j'ai eu des problèmes.
Tu t'améliores pas, hein.
Non, mais c'est mon vécu, Vanessa. C'est ma façon de vivre, c'est ma façon de penser.
Ah, tu fais un rejet. Ouais.
Alors non, je fais pas un rejet. Voilà, c'est, je suis comme ça. C'est comme quand
c'est épidermique.
Voilà.
Et alors?
Eh ben, j'ai eu un dans ma vie, j'ai eu des problèmes justement par rapport à la communauté maghrébine.
Ah, Karim. Et ta radio. C'est pas Karim.
Allô.
Qui oui. C'est qui a la radio d'allumer? C'est pas possible.
Ah mais c'est pas moi. Hein. C'est pas moi. C'est...
Fatima.
Non, j'ai pas de radio. J'ai pas de radio du tout.
Sabrina, t'as pas de radio non plus. Vous avez pas de kit main libre? Pas de kit main libre.
Non, pas du tout.
C'est Karim. Dès que je l'éteins, tu vois, dès que je l'éteins, n'importe quoi. Dès que je mets en attente, c'est Karim. Bon, Karim, je te mets en attente. Alors oui, donc.
Oui, alors je te disais que, tu sais, je t'ai parlé une fois de ma vie, que moi j'aimais bien, toi j'étais une fille un peu, qui sortait beaucoup, qui avait beaucoup d'amis, voilà, qui aimait les soirées, tout ça et tout ça. J'ai un esprit d'ouverture, mes vrais amis, sont beaucoup européens. Je sais pas si c'est un problème ou quoi, mais toi tu me disais que c'était un problème, pour moi non. Moi j'ai ma façon de vivre qui est comme ça, voilà. J'ai mon verre de champagne, je sors, j'ai mes soirées, tout ça. Mais, le problème que j'ai eu de racisme, c'est dans la communauté maghrébine dont j'ai des origines, parce que j'ai des origines algériennes. On m'a jugé, on m'a insulté, on a tout fait. J'ai dû faire passer des personnes devant la justice à cause de ça, dont j'ai eu gain de cause, parce que j'avais une façon de m'habiller, qui plaisait pas. Je suis pas pratiquante, non croyante et tout ça. Et on m'a insulté de sale française que j'ai tourné ma veste, voilà. Moi, le racisme, je l'ai subi dans la communauté maghrébine. Justement, Samir parlait d'ouverture d'esprit. Tu vois, je le comprends parce que il y a
un écho chez toi, Sabrina. Il y a un écho. Hein.
Allô?
Il y a un écho.
Ah oui? Rien d'allumé. Hein.
Bah écoute, t'es sous haute surveillance, moi je te le dis. T'es sur écoute. je te conseille de pas trop voyager. Elle est sur écoute. Vous entendez, ça fait glic glic glic, c'est bizarre. Hein. Bon, bah écoute. Alors.
Et puis voilà, je comprends un peu ce que dit Samir, parce que Samir il a été expliqué dans le sens.
Non, c'est pas Sabrina.
Vous voyez, il a exprimé avec ses mots. Moi, j'aimerais savoir, j'aimerais poser une question, si les femmes en Algérie faisaient une manifestation pour porter la mini-jupe et les talons, que se passerait-il?
Allô? Qui peut répondre à cette question? Enfin, je sais pas, je ne comprends pas le sens.
Voile, on parle du voile en France en disant, voilà, ça, mais...
Fatima, est-ce que tu peux lui répondre?
Si après le contraire, que se passerait-il?
Non. Il y a des personnes qui portent. Attends, j'arrive pas.
Non, mais s'il y aurait une manifestation.
Attends, va te répondre.
Écoute.
Alors, Faïza, tu m'envoies des messages, mais j'aimerais bien que tu interviennes à l'antenne,
écoute,
Faïza.
Écoute, Sabrina. Tu sais que je t'estime beaucoup, je suis d'accord pour la plupart du temps, je suis d'accord avec toi. Mais là, je suis pas d'accord avec toi. Ce que tu racontes entre soirées et tout, moi, il y a un peu de temps, moi, j'ai autour de moi des amis qui vivent, comme tu dis, à l'européenne. Qu'est-ce que l'européenne? La différence entre l'européenne et la maghrébine. C'est une question de boissons et de cigarettes.
Non, je ne suis pas d'accord, Fatima.
Attends, mais laisse-moi développer. Pour certains esprits fermés, pour eux, c'est-à-dire tant que ça me... Moi, personnellement, je ne supporte pas la cigarette. Si quelqu'un fume devant moi, je ne peux pas rester avec. Mais je ne le condamne pas.
Mais
je le condamne pas. Voilà. Je ne fais pas de leçon de morale. Et donc, moi, j'ai des amis qui fumaient. Bon, maintenant, elles ne fument plus. Mais en Algérie, des jeunes filles qui portent des mini-jupes, des pantalons, des machins. Vous nous prenez pour qui?
Non, Fatima, je ne te crois pas. S'il y aurait une manifestation de femmes dans les rues,
écoute.
Les mini-jupes, on veut les talons.
Attends, Sabrina. Tu me crois, Sabrina. C'est du vécu. Je suis allée il y a 3 mois peut-être en Algérie, il y a 3 mois. Hein. Eh bien, je te promets que là où j'étais, il y avait des jeunes filles avec des jupes courtes, et j'ai même vu une jeune fille qui était avec un groupe d'amis, garçons, filles, enfin un groupe de jeunes, qui étaient là en train de siroter, je sais pas ce qu'ils veulent. Et je te dis, il y a des jeunes filles qui sont entrées, une qui avait une très jolie robe, il faisait encore beau, 3-4 mois, il faisait beau, alors avait une très jolie robe un peu comme zébrée, noir et blanc, très jolie, courte, et une amie qui était à côté d'elle qui avait un short. Et c'est dû, il y a quoi, 3-4 mois, un short.
Pourquoi en France c'est...
Short basket. Ah ouais, ouais, ouais. Short basket, voilà, un petit haut.
Alger.
Tu peux pas faire mieux qu'Alger. Alger. Non mais attends, Alger, tu sais quoi? Alger, c'est ultra populaire. Si c'était vraiment... Non,
tu parles des hauteurs d'Alger. Mais enfin, moi je comprends pas.
On s'en fout, l'endroit.
Pourquoi on oppose en fait le débat qui nous concerne ici en France? Et on le compare à ce qui se passe en Algérie. Peut-être de par un peu nos origines et l'immigration.
Bah c'est Sabrina qui nous
intéresse ici. C'est de parler... sincèrement, moi, ça m'intéresse peu ce qui se passe en Algérie. C'est mon pays d'origine, j'aime beaucoup ce pays. Il n'y a pas de souci.
Ouais, mais c'est toi qui en a parlé tout à l'heure, Samir. T'as dit oui, en Algérie, les années, machin, etc. Donc, t'as mis un peu les gens sur les rails. On a Hakim. Non, mais c'est très intéressant. Avoir l'avis des uns et des autres, vous partez pas. Hakim, et je prends juste après Faiza. Hakim, bonsoir Hakim. Bonsoir, de 93. Oui, très bien Hakim, bienvenue à toi.
Merci beaucoup.
Alors, Hakim, oui, on t'écoute Hakim.
Bah, dites-moi tout, j'étais pas trop là sur ce sujet.
Ah ben on va pas tout te raconter, alors là, dites-moi tout. Alors ça, c'est la meilleure du monde. Ouais, alors Hakim, t'as mangé quoi ce soir? Enfin, bref.
Je voulais vous parler d'un autre sujet, moi.
Eh ben écoute, je te reprends juste après, on prend Faiza pour continuer le sujet, je te reprends pour l'autre sujet. Il va nous parler de la recette de la tchouk-tchouka, Hakim, et t'as raison, Hakim. Alors, Faiza, bonsoir Faiza de Suresnes.
Bonsoir.
Bonsoir, bienvenue Faiza.
Bonsoir à tout le monde.
Oui. Alors, on est avec Fatima, tu vois, on est avec Fatima, Samir, il y a tout le monde, quoi. Il y a Karim aussi, j'espère qu'il a éteint sa radio. Ah, ça va mieux, là. Oui. Alors, Faiza, on t'écoute, ma chérie, vas-y.
Je voulais juste aussi rebondir sur un truc, parce que, effectivement, moi aussi, en septembre, je suis partie à Alger. Et moi, c'est encore plus représentatif. Il y avait une jeune fille qui était en crop top. Sabrina, je suppose que tu sais ce que c'est qu'un crop top.
Oui, je sais.
Avec un jean troué et qui se baladait avec. C'est vraiment un t-shirt.
Crop top, c'est très court. On voit
le nombril.
Voilà.
Voilà. Même au niveau de la poitrine.
En bas de la poitrine.
Ça cache la poitrine,
quoi. Voilà, ça cache juste la poitrine et ça laisse apparaître le nombril et le ventre. Et elle avait un jean troué et elle se baladait avec une fille voilée juste à côté d'elle. Bon, elle sortait, comme c'était en septembre, elle sortait de la fac d'Alger. Mm-hmm. Et personne en fait ne les regardait. C'était juste pour
expliquer. Attends, Samir, on est d'accord.
Pourquoi en France ils font pas pareil alors?
De la fac centrale.
Comment ça ils font pas? Attends, Samir, je parle à Sabrina. Comment ça ils font pas pareil, Sabrina, en France?
Pourquoi ils sont dans le jugement en France? Moi j'ai été jugée par rapport à ça
parce que peut-être tu vis dans une petite, enfin c'est à Grenoble, tu vas à Paris ou en Île-de-France. Tout le monde se
balade
comme ça,
ils ne
sont pas jugés.
Oui, mais en ce moment,
on ne va pas stigmatiser Grenoble. On connaît Grenoble.
Non, ce que je veux dire, c'est pas ça. C'est que
non, mais je ne parle pas de toi, Faiza, mais Grenoble, mais Sabrina, t'exagères.
Non, ce que je veux dire, c'est que pourquoi à Paris. Sabrina, tu auras toujours des abrutis qui vont juger.
Elle a raison, Faiza, je suis d'accord.
Mais en attendant, c'est pas tout le monde.
Je veux dire, les esprits étroits sont partout. Je veux dire, ça n'a pas de la bêtise.
Oui, mais c'est pour ça que. Mais là, quand
ça dépend comment les élèves par rapport à
leur. Attendez, parce qu'on s'entend plus là.
Tout le monde parle en même temps. Sabrina, moi, je ne suis pas d'accord sur un truc, c'est que, effectivement, tu as dit. Tu es victime de racisme parce que voilà. Non, tu n'es pas victime de racisme. Par contre, je te rejoins. Non, tu es victime d'un jugement. Non. T'as été victime d'un jugement. D'un jugement par rapport à ta tenue vestimentaire. Le racisme, c'est par rapport à tes.
Il n'y a pas que le vêtement.
Ah, parce qu'en fait, on t'a reproché d'être une Française alors que tu es algérienne.
bah on oui. m'a reproché. Oui, on m'a dit que je me prenais trop pour une Française. Et que je,
mais parce que tu t'habilles d'une façon. Tu t'habillerais
non,
pas d'une façon.
Pas c'est pas ça, c'est fréquentation, ma façon de vivre, ma façon de voir.
Mais ça, non, mais attends. Tout d'abord, aussi, tout d'abord.
Moi, je fréquente que des Français. J'ai jamais été.
Oui, tout d'abord. Attends, Sabrina, tu es victime d'abruti. Parce qu'il faut être abruti pour traiter quelqu'un de Français ou de quoi que ce soit. Il faut vraiment être le dernier des abrutis. Mais il y a des abrutis partout. Non, t'as des abrutis partout. T'en as qui vont insulter une femme parce qu'elle est voilée. Il y en a qui vont insulter une personne. Oui, t'as des abrutis partout.
Oui, mais ce que je veux dire chez les Maghrébins.
Et il y a Mourad qui s'est fait, le jardinier, qui s'est fait planter dans le cou, le pauvre, il a failli mourir, par un abruti de raciste qui l'a traité de bougnoul. C'est un abruti le mec qui l'a traité comme ça. Sabrina, des abrutis, t'en as partout dans toutes les communautés. Il y en a. Ouais, on n'est pas à l'abri.
Oui, mais on a.
Sabrina, j'ai une question. Moi, j'ai une question.
C'est qui s'émancipe? On n'accepte pas ça.
Moi, j'ai une question.
Mais c'est quoi s'émanciper? Oui, vas-y.
S'émanciper, vivre comme une Française, c'est tout.
Attends. Une chose. Vivre comme une Française. Est-ce que toutes les Françaises sont émancipées? C'est ça que je veux comprendre. Ça ne veut rien dire, ça. Émancipées parce qu'on vit. Non, ça ne veut rien dire du tout. Alors, tu sais, je vais te dire une chose. Il faut que je vous dise une chose. La femme algérienne, elle est émancipée. Elle n'a rien envié à personne, ni française, ni qui que ce soit. Puisqu'on parle de l'Algérienne, la femme algérienne d'Algérie est émancipée depuis la nuit des temps. Parce que quand tu vois la Kaïna en Kabylie qui a combattu pour la liberté de la femme, quand tu vois la Nenem Soumer, quand tu vois qui était émancipée, qui montait son cheval, et qui voilà, les années 1900, alors là, plus émancipée, tu ne fais pas. Et quand tu vois, encore une fois, durant la guerre d'Algérie, Jamila Bouhirod, comment elle s'appelle, et toutes ces femmes qui ont combattu le colonialisme et qui étaient jeunes, elles avaient 18 ans, 19 ans, 20 ans. Et leur famille n'était pas derrière pour les enfermer. Non, tu sors pas, tu fais pas. Non, c'est des femmes qui sortaient, qui voilà. Pourquoi? Parce que elles avaient une mission à faire. Enfin, leur mission de combattre le colonialisme, etc. C'est des femmes qui étaient, parce que dans leur tête, elles étaient émancipées. L'émancipation, c'est pas dans le vêtement, Sabrina. C'est ça qui tu te trompes. C'est pas parce que tu vas porter une mini jupe ou un legging ou je ne sais quoi. C'est bien parce que moi, je l'ai porté la mini jupe quand j'étais jeune. Mais c'est pas parce que qu'on porte une mini jupe qu'on est une femme émancipée. Non, on est une femme. Voilà, on suit la mode. C'est tout. Khlas. L'affaire, elle est close. On suit la mode. C'est tout. On n'est pas une femme émancipée quand on porte la mini jupe. On est une femme qui suit la mode. Être une femme émancipée, c'est être une femme dans sa tête. Elle a la tête pleine, une femme émancipée. Une femme émancipée, elle peut porter le foulard, mais elle a la tête pleine. Et elle a le savoir. Et elle peut diffuser le savoir et instruire les autres et leur apprendre, leur enseigner. Et ben, c'est une femme émancipée. Avec son foulard, elle est plus émancipée que celle qui va porter et la mini-jupe, mais qui, elle suit juste une mode. Ça ne veut rien dire. Arrêtez de vous arrêter, encore une fois, à la vitrine. Je vois la vitrine. Je vois une femme dans la rue, je la vois en mini-jupe, ou je la vois, suivre la mode, et je me dis, ah, c'est bien, c'est une femme émancipée, elle est moderne. Mais c'était des mentalités rétrogrades de nos grands-mères qui connaissaient pas grand-chose. Peut-être elles avaient ce genre de réflexion. Mais nous, aujourd'hui, on n'a pas le droit de penser comme ça. Allez au-delà. Essayez de pénétrer l'esprit de ces femmes qui sont vraiment émancipées. Comment elle s'appelle? Marie Curie, par exemple, c'était une femme émancipée. Elle suivait pas la mode. Elle était habillée n'importe comment. Elle suivait pas la mode, mais elle était tout le temps dans son laboratoire, faire de la chimie, faire des calculs, etc. Pour trouver des solutions et des maladies. Bon, après ça a été un peu détourné, mais Marie Curie, elle était dans la recherche, dans la science. Et c'était une femme émancipée, pourtant elle suivait aucune mode. Voilà. Donc une femme émancipée. Moi, je vous en ai cité quelques-unes. Je vous ai cité Kaïna. Je vous ai cité Nenem Soumer. Je vous ai cité les Jamila Bouhirod, et Hassiba Ben Bouali, etc. Et Et aujourd'hui, il y a encore d'autres femmes qui se battent dans beaucoup de pays, mais qui se battent pour le savoir. L'émancipation, c'est dans la tête. Avoir une tête pleine. C'est pas porter une mini-jupe. Voilà. C'est dit. Maintenant, vous faites ce que vous voulez avec. Ok.
Alors, moi, j'ai une question à Sabrina.
Je n'ai pas compris ce que je voulais dire.
Moi, j'ai juste une question pour toi, Sabrina.
Non, non, mais je voyais un tout. En attendant, ben, je suis contente parce que la justice m'a donné gain de cause.
C'est quand même très étrange que j'ai suivi le racisme dans la communauté maghrébine.
Non, parce que tu as eu des références qui sont erronées, Sabrina. Non, tu dis je suis une femme émancipée parce que je vis à la française. Ça veut rien dire du tout. Parce que il y a attends, il y a combien de femmes françaises en France? Je sais pas combien, puisqu'on est 70 millions, il doit y avoir peut-être 40 millions, 35, 40 millions de femmes, je sais pas. Eh bien, non, il y a, non, attends, il y a,
vous comprenez pas.
Attends, il y a autant, 30, si on est 35 ou 37 millions, il y a 37 millions de femmes différentes. On est toutes différentes. On n'est pas pareilles. Donc il faut arrêter de dire à la française. Ça veut rien dire du tout. Oui, ça, c'était nos grand-mères qui disaient à la française.
On dit en France, Vanessa. Si j'étais en Algérie, qu'on me dirait bon.
Mais ça veut rien dire. Même en France,
si
on est
dit. Si en Algérie, c'est interdit de mettre des talons avec des mini-jupes, je respecterai.
Mais en Algérie, c'est pas interdit. Qui t'a dit que c'est interdit? Qui t'a dit que c'est interdit?
Je pense pas qu'il y a des milliers de femmes qui mettent des mini-jupes.
Mais Sabrina, t'as des clichés.
Mais Sabrina, arrête. T'as des clichés en Algérie? On est en 2023, t'as déjà été là en Algérie?
Attends. Sabrina, tu connais les lois algériennes? Est-ce que dans une loi, les lois algériennes, il est mentionné...
Ils mettent en prison les gens
femmes qui portent
des
talons. Mais ça va pas, non? Mais Sabrina, réveille-toi! Tu nous parles de quoi, là? Tu nous parles de Cro-Magnon?
Bah non, mais j'en ai pas vu en France.
Mais t'as, oui, ça fait combien de temps que t'as pas été en Algérie?
T'as pas vu quoi? Sabrina, tu n'as pas vu quoi?
T'as vu en France quoi?
En France, je n'ai pas vu des femmes arriver du bled en mini-jupe.
Ah ouais, Sabrina, ça va pas du tout, toi.
Ah,
Sabrina, ça va pas. C'est pas possible.
Ah,
mais c'est pas possible. Non, mais c'est juste pas possible. Parce que moi, les années 70, les années 80, quand on partait en vacances en Algérie, ma propre mère, elle s'habillait comme tu décris, avec des talons aiguilles, etc. En partant d'Algérie, elle revenait comme ça. Non, mais je lui dis, déjà à l'époque. Et maintenant, encore pire. Je suis je suis en train de lui dire que là, il y a 3 mois, j'étais en Algérie et j'étais attablée à côté de jeunes femmes qui étaient enchantées. Et dans la rue, c'est pareil. Et elles étaient assises. Il y en a qui fumaient. Bon, c'est pas bon de fumer, mais parce pour la santé. Mais qui fumaient, chacun vit sa vie comme il l'entend. En Algérie, il y a rien qui est interdit. On t'interdit pas de.
Viens Orly, Viens Orly et tu verras.
Ah oui, c'est vrai. C'est vrai.
Les gens qui viennent du bled, comme
tu
dis.
En attendant, moi, quand on parlait de racisme, moi, je l'ai subi par la communauté maghrébine. Je l'ai pas subi.
D'accord. Et moi, ma question est justement, voilà, c'est ce que j'allais dire. T'as jamais été jugé par notre communauté? Jamais. T'as jamais été jugé par
une autre que. Ouais.
Que la communauté maghrébine.
J'ai beaucoup de problèmes avec
d'accord. Non, tu réponds pas à ma question. Est-ce que elle est simple? Non, oui. Est-ce que tu n'as jamais été jugé par l'autre communauté? Oui ou non?
C'est-à-dire communauté non maghrébine. Non maghrébine.
Non, voilà. Mais elle sait très bien de quoi je parle quand je dis l'autre communauté.
J'ai beaucoup d'amis espagnols.
Non, je ne te parle pas d'amis. Je te parle de gens qui t'ont mal regardé de l'autre communauté. Parce que tu adores dire la communauté maghrébine. Non, jamais. Tu n'as jamais remarqué des regards malaisants. Non.
Ah, d'accord. Elles sont malaisantes. Donc. Pourquoi vous croyez pas? On a l'impression que vous avez la parole exacte.
Mais non, je parle de mon vécu
en tant que maghrébine qui veut vivre comme une européenne, comme une vraie française. Voilà, et ben j'ai été.
Mais on m'a traité de. Il y en a tellement des gens comme toi, Sabrina.
La justice m'a donné raison.
C'est qui?
J'ai porté plainte.
Mais parce que t'es tombée sur un désabruti.
Attends, il y a Fatima qui veut parler. Attends, Sabrina, il y a Fatima qui veut s'exprimer. Oui, Fatima. Sabrina, Fatima, essaye de reculer ta bouche du téléphone. Oh mince, on l'a perdu. Fatima, elle avait des choses à dire. Reviens, Fatima. On a Abdel. On va voir ce que veut nous dire Abdel. Abdel du 93. Bonsoir, Abdel. Abdel.
Allô.
Oui, Abdel, tu es là?
Oui, je suis là. Vous m'entendez?
Oui, on t'entend. Donc on est avec Faïza, Sabrina et Karim. Ouais. Vas-y.
Bonsoir. Salut Abdel. Super, enchanté. Moi, je voulais parler à Sabrina. Écoutez, moi, j'ai 42 ans. Je suis marié avec une Française depuis 8 ans.
Alors, tu es marié avec? On n'a pas entendu.
Une Française.
D'accord. Très bien.
Voilà. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Quand j'arrive en Algérie, effectivement, il y a quelques petits regards. Mais voilà, moi, ma femme a mis des mini-jupes, des strings, je lui ai payé ses nouveaux seins. Il n'y a aucun problème là-dessus.
Ah bah c'est sympa. Abdel, avoue que c'est quand même, c'est un peu drôle quoi. Voilà,
c'est sympa comment tu l'as. En fait, c'est la façon dont tu l'as dit.
Comment tu l'as décrit ta femme?
Abdel, c'est une femme libre.
Abdel, bien hein, tranquille. Moi, je les ai payés moi-même. Tu vois, j'ai travaillé pour me payer.
Oh là là, mon Dieu, ça y est. Là, on va tomber dans un truc. Non. On va rester dans le soft quand même. Et donc, Abdel, donc tu pars avec ta femme en Algérie. Tu es dans quelle région?
Je suis à Oran.
Effectivement.
Alors que je Oran, c'est quand même assez. On sent un petit peu le regard, tout ça. Mais alors, ça fait 8 ans que je suis marié avec elle. Avant de me marier avec elle, quand j'allais en Algérie ou au Maroc, je veux dire, voilà, toutes les femmes, la prostitution et ce qui se passe dans ces pays-là, on ne va pas se cacher ni se mettre des voiles.
Attends, je ne comprends pas pourquoi tu parles de prostitution, mais la prostitution, il y en a aux quatre coins de la planète. C'est le plus vieux métier du monde. Je ne comprends pas, Abdel. C'est le plus vieux métier du monde. Alors, mettre en avant le plus vieux métier du monde qui existe aux quatre coins de la planète, je ne comprends pas le propos, puisque là, de ce qu'on est en train de dire, ça n'a rien à voir avec le sujet.
Il ne faut pas critiquer les prostituées.
Non, mais ça n'a rien à voir.
C'est-à-dire qu'on accepte, on accepte les prostituées et la prostitution, mais on n'accepterait pas une femme algérienne qui vient de France avec une mini-jupe.
Bah si, on accepte. Pourquoi on n'accepte pas? Je ne comprends pas, moi.
Oui, parce que là, on a complètement dévié.
Moi, j'en ai vu, hein.
Moi, vous m'avez perdu, là, parce que je ne comprends pas.
Ben moi, j'en ai vu, en fait.
Abdel, là.
Sur 1000 personnes.
Non, mais Abdel, tu nous sors un sujet qui n'a rien à voir avec le schmilblick, là. Hein. Là, on parlait vraiment d'un autre sujet. On parlait, il y a Sabrina qui nous parlait de son expérience de femme, elle a des problèmes avec sa communauté, etc. Faïza lui explique que de l'autre côté de la Méditerranée, que ce soit en Algérie, au Maroc, en Tunisie, qu'on connaît très bien, ces pays, de toute façon, c'est la même chose. Hein. Eh bien, les femmes sont aussi, émancipées qu'en France, que ce soit marocaine, algérienne ou tunisienne, elles sont émancipées comme en France. Voilà. Et émancipées. Abdel, t'es tombé dans le panneau, parce que toi, tu nous sors que ta femme, bref, je change le truc de la chirurgie, mais tu nous dis, est-ce meilleur mini-jupe, machin, etc. Mais on parle d'émancipation. L'émancipation, comment vous la voyez, Arbé? C'est-à-dire que l'émancipation, elle est complètement tordue dans votre esprit. Parce que l'émancipation, c'est pas la tenue. C'est pas parce qu'une femme, elle se met en mini-jupe qu'elle est émancipée. Une femme qui porte une mini-jupe, c'est une femme qui suit la mode. Et c'est bien. Elle a raison. C'est bien. Si ça lui plaît, moi-même, je veux dire, je suis la première à l'encourager parce que j'aime la mode. Je la porte plus maintenant, mais je l'ai portée quand j'étais plus jeune. Mais, je veux dire, mais je n'étais pas émancipée. Pour autant. Juste, je suivais une mode. L'émancipation, c'est dans la tête. Tu as des femmes qui vont porter la mini-jupe, mais elles sont complètement hermétiques dans leur tête et elles sont pas du tout émancipées. Du tout. Donc arrêtez de voir la vitrine et de regarder juste l'extérieur et les apparences. Les apparences, ça ne veut rien dire. Je connais des femmes qui portent le foulard, mais oh mon Dieu, comment elles sont émancipées par rapport à d'autres.
Ah ouais.
Quand tu discutes avec elles, mais oui, elles m'apprennent des choses. Elles ont évolué, elles ont avancé. Pourquoi? Parce que tout simplement, elles ont étudié, elles ont savoir, elles sont architectes, elles sont dans tous les corps de métier. Mais oui.
Ah bon?
Mais oui, elles ont des bagages à ne plus en finir. C'est pas parce qu'elles portent un foulard, il faut arrêter de regarder la devanture. Voilà, je regarde, elle est habillée comme ça. Donc ça c'est des clichés. Il faut arrêter. Vraiment. L'émancipation, c'est dans la tête. Avoir une tête pleine. C'est pas porter un vêtement. Porter un vêtement, c'est suivre une mode. Par exemple, les jeans troués. Est-ce que c'est émancipé? Non, c'est une mode. C'est pas moche, mais c'est une mode. C'est une mode. Et d'ailleurs, c'est une mode où tout le monde se retrouve. Voilà, il y a des groupes de femmes qui se retrouvent, qui aiment ça, mais ça prouve pas qu'elles sont émancipées. Et vous, encore une fois, je répète, il y a des femmes qui portent le foulard, qui portent le voile, et qui sont émancipées. Moi, j'en connais. On a Nadia Bouga, par exemple. Elle est sexologue. Ici, elle vient avec Philippe Robichon dans son émission. Elle a une émission ici. Nadia Bouga, allez chercher sur Internet, vous allez trouver. Tapez Beurre FM, Nadia Bouga. Eh bien, elle vient, elle participe à des émissions où elle reçoit des couples. Elle est sexologue. Elle est d'une ouverture d'esprit incroyable. Elle parle de sexe comme moi, je ne peux pas parler. Et parce que je n'ai... Elle, moi, je vais parler de pudeur, mais elle, c'est... ça va au-delà parce qu'elle en parle scientifiquement, on va dire. Voyez, c'est une femme qui est hyper ouverte, qui est hyper émancipée, cette femme. Et pourtant, c'est une femme qui porte le hijab. Et mais elle est plus, et c'est elle qui guérit les maux des gens. Quand elles ont des problèmes sexuels, les femmes, etc., quand ils ont des problèmes de couple, ils vont la voir. Et elle, elle leur règle leurs problèmes, elle leur explique le pourquoi du comment, pourquoi la frigidité, pourquoi ceci, pourquoi il n'y a pas d'érection, pourquoi ta 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 ta. Et pourtant, c'est une femme qui porte le hijab. Vous voyez? Et elle a pas de problème avec ça, puisqu'elle en parle ouvertement. Vous voyez, l'émancipation, pour certains, vous la situez là où il faut pas, dans l'habit. C'est complètement faux. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, mais revenez demain parce que c'est un sujet qui est très intéressant et j'ai bien envie demain qu'on puisse le poursuivre. Donc revenez demain, Faïza, Sabrina aussi, Karim qui s'est pas exprimé, mais revient demain et Hakim, tout le monde. Merci Solal, Faudi, j'allais dire, parce que c'était Faudi qui m'a fait la réa ce matin avec les petites annonces. Terminé pour ce soir, on vous laisse avec la suite des programmes de Beurre FM. Là tout de suite, Rayantologie, attention, ne loupez pas Rayantologie. Demain, dès 7h, 7h, 10h, vous avez rendez-vous avec Kim et Fodil pour la matinale. Et moi, à partir de 13h, 13h, 14h pour vos petites annonces. À demain, je vous aime, bye.
Retrouvez Confidence tous les jours de 21h à 23h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.